Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Foot, Intégral Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
After review.
Yeah, I did. I spoke to Johnny.
Number 9 of all Norway.
I asked for a review because I didn't think it was a foul.
Push deliberately the defender before the ball was in play.
I was not a guy punching somebody in the face.
Final decision.
How would you feel if I took Ronaldo or we took Messi out?
Corner retaken.
Et bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est la 33e nuit de l'After qui continue jusqu'à 2h du matin. L'After est sur RMC, l'After est sur la chaîne YouTube, bien sûr de l'After Foot. Vous écoutez la première radio de France le soir dans l'After qui est à nouveau en direct de New York. Et là, alors là, on a un décor de rêve, on est en plein Manhattan. Il est évidemment ici 16h02, donc il fait encore jour, il fait très beau. Et pour des premières fois de l'histoire de l'After en 20 ans, je crois que nous aurons un After avec du soleil sur le plateau, ce qui est assez surprenant. Enfin, c'est comme ça. Nous, on n'a pas trop l'habitude. D'habitude, on est à la nuit, très tard, dans le noir. Donc, on est dans le quartier de Times Square, au Café Luce, qui nous reçoit dans la 51e rue. Si vous êtes dans le coin, que vous voulez passer, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. L'entrée est libre. Maxime Chano est là, l'Américain.
Toujours là.
Maxime.
Je suis pas parti, je suis resté. Mais bon retour, en tout cas, à New York. On est très heureux de te recevoir encore une fois, Gilbert, qui est parti à Paris quelques jours et qui est revenu. Voilà.
Ouais, voilà. Parce que maintenant, on sent la victoire, donc on est revenu.
Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, salut.
Julien Laurence, lui, est resté. Depuis le début. Parce que depuis le début, lui, alors, cela dit, il a plein d'équipes, donc ce gros feinteur. Il en a encore deux possibles.
Je peux avoir la finale de rêve, hein. La finale France-Angleterre, c'est la finale parfaite.
Quasiment. Finale de rêve.
Et puis alors là, on va en reparler tout à l'heure. Et excusez-moi, mais là, aujourd'hui, présence d'une légende.
Ah ouais.
Qui est l'homme qui a fait monter Strasbourg en Ligue 1.
Ah, c'est pour ça.
L'homme qui sait tirer les pénaltys, on va en reparler tout à l'heure parce qu'il y a un vrai sujet pénalty ici à la Coupe du Monde. Il a travaillé avec nous il y a quelques années déjà, il a brillé de mille feux. Maintenant, bon, il est parti chez les Américains. Quoi.
Non, je me suis fait virer, pareil. C'est pas pareil.
Trop cher.
Franck Leboeuf est là, salut Francky.
Salut tout le monde, très heureux. Ça fait combien de temps que tu fais l'After, tu m'as dit ?
20 ans.
Putain, mais t'es le Michel Drucker de la radio, quoi, en fait.
Bah,
la
écoute,
longévité, pas pour toi.
Ouais, voilà. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il y a que moi qui me souviens de Strasbourg-Rennes avec Jackie Paillard et Franck Leboeuf.
Ah, non, mais moi, je suis avec toi à fond. Cette frappe extraordinaire de Stéphane Kishi en pleine lucarne.
Oh, la légende de 35 mètres sous la barre et bam!
Paf, Pascal Rousseau, pardon. Salut, poteau.
Donc, l'actu. Les gars, bien sûr, les dernières infos de veille de match. On aura Fabrice Hawkins avec nous dans quelques instants. On va tous savoir de ce qui se dit en France, sur la France, sur l'Espagne également, puisque Florent Germain, lui, suit l'équipe d'Espagne. Et puis, on débattra. Parce que finalement, vu les force en présence en demi-finale, vu la forme de chacun, est-ce que finalement pour la France ne pas gagner la Coupe du Monde ne serait pas un échec ? On va en parler tout à l'heure ensemble. On profitera donc de la présence de Franck pour revenir sur les chiffres cata des pénaltys lors de ce mondial. 65% seulement des pénaltys transformés. Et puis après 23h, un petit sujet anglais. Gary Lineker estime que Jude Bellingham peut devenir le meilleur joueur anglais de l'histoire. Est-ce qu'il a raison dans un contexte où Bellingham, on va dire, est légèrement contesté? Julien nous donnera son avis, évidemment, on en débattra. Et puis alors, on a lancé un grand jeu l'autre jour dans l'After. En partant des comparaisons qu'on faisait entre Mbappé, Platini et Zidane, on disait bon ben voilà, maintenant on en a trois à la table en fait. Enfin, ils sont trois. Et on s'est amusé à commencer à faire les tables des autres pays. Et là, c'est parti en vrille.
Ah ouais, j'imagine.
Donc là, il faut qu'on continue ce soir. On va faire la table anglaise, on va faire la table espagnole. On nous a réclamé la table algérienne. Je sais pas si on va faire la table luxembourgeoise.
Numéro 1, on l'a avec nous.
Numéro 1, numéro 2, numéro 3.
Mais pour l'Angleterre, si la table est aussi bonne que leur cuisine, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Hein.
Ouais, ça c'est pas faux. Bon, en tout cas, Lineker, lui, est déjà à la table. Je sais pas si Bellingham y sera bientôt. Ou si
Keegan, Roger Moore, ouais. Charlton.
Ah.
Charlton.
Beckham, oh.
Ouais.
Beckham.
Mais non, pas Beckham.
Roger Moore, c'est pas Beckham.
Rigole, Beckham par rapport aux autres, mais il n'y a pas photo.
Roger Moore, c'est autre chose. Mais
ouais,
la table des acteurs.
Roger Moore, c'est la table des agences.
Ah, le Moore,
James Bond.
Le défenseur.
Ouais. Bobby Moore,
voilà.
Bobby Moore.
Ah là là, quelle susceptibilité. C'est pas près le même prénom.
Non, mais ça chante beaucoup, hein, surtout quand Chanoël là. Hein, tu vois.
Ah ouais,
c'est prépare-toi.
Ah.
On y va crescendo.
Tout ça sans oublier l'actu du jour, évidemment, notamment l'actu mercato, puisque Lucas Digne se rapproche de plus en plus du PSG. Vous aurez les infos tout à l'heure. 32-16, on vous attend. On vous attend sur le numéro WhatsApp de l'After, 06-12-424-424, bien sûr. Fabrice Hawkins est là. Fabrice, avant qu'il prenne la parole. Jingle Fabrice Hawkins. Nouveau jingle Fabrice Hawkins, parce que Fabrice Hawkins... est à Dallas. Eh oui, monsieur dame.
Ah bon.
Magnifique.
Pendant 48 heures, vous allez y avoir droit. Fabrice, bonsoir.
Bonsoir, salut à tous. J'aime beaucoup le jingle.
Voilà, c'est ton nouveau jingle, c'est mieux que le faucon. Bon, on veut évidemment la compo pour demain, Fabrice. Est-ce que tu es sûr à 100% de cette compo déjà? Est-ce que tu peux nous la donner?
Bah, c'est une information en soi. Non, je suis pas sûr de la compo. Effectivement, on va suivre ça avec avec beaucoup d'attention, heure après heure, jusqu'à demain, évidemment, sauf si ça tombe de manière certaine avant. Mais on n'est pas sûr à 100% que Aurélien Tchouaméni, qu'on annonce depuis plusieurs jours titulaire, donc de retour après sa blessure à la cuisse, on n'est pas sûr qu'il soit titulaire, même si ça reste une tendance, mais c'est une petite tendance. Et puis à gauche, il y a toujours ce doute entre Bradley Barcola et Désiré Doué. L'entraînement vient de se terminer, l'entraînement à huis clos, donc on va avoir comme ça au fil des minutes les infos sur ce qui est passé. Les premières tendances, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de mise en place, ce qui confirme la thèse du secret, en tout cas du fait qu'on souhaite garder le plus d'informations possible du côté du staff avant cette rencontre. Et donc voilà, il y a deux principales interrogations. C'est au milieu du terrain qui va accompagner Adrien Rabiot, Manu Koné ou Aurélien Tchouaméni, et qui va jouer à gauche, Désiré Doué ou Bradley Barcola. Le reste de la compo, vous la connaissez.
Bon, les gars, moi, si Tchouaméni ne joue pas demain, est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle quand on voit le rendement de Koné depuis le début de la Coupe du Monde? Qui veut s'exprimer en premier? Max?
Oui, moi, je vais commencer parce que j'avais dit un peu plus tôt, je m'étais fait tomber dessus d'ailleurs quand j'avais dit, quand Tchouaméni était blessé, que c'était pas très très grave si Koné venait. En tout cas, il y avait toujours une catastrophe de la part de l'opinion publique. On perd l'un de nos meilleurs joueurs, on le rappelle, le vice-capitaine. Moi, sincèrement, quand je regarde la paire Rabiot-Koné, quand je la compare avec la paire Rabiot-Tchouaméni, je préfère la paire Rabiot-Koné. Pourquoi? Parce que Koné, il a cette perspective, il a cette possibilité de pouvoir aller vers l'avant. Et en fait, je trouve qu'il libère un petit peu Rabiot. Si je préfère du travail défensif, du travail même offensif, la manière dont il régule le jeu. Je trouve que les deux sont un petit peu plus complémentaires. Que quand c'est Tchouaméni qui joue, tu sais comment que ça se passe. Tchouaméni est un peu plus bas. Il a tendance à venir dropper entre les défenseurs centraux. Il est beaucoup plus défensif. Et il laisse Rabiot faire le jeu offensif. Et on sait que Rabiot aujourd'hui, même si c'est un super joueur, même s'il fait une superbe Coupe du Monde, je suis pas convaincu que ça soit le joueur qui soit en mesure, en tout cas, d'aider l'équipe de France à être performante dans ce milieu-là. D'autant qu'il ne faut pas oublier, tu vas jouer contre l'Espagne, un milieu à 3 avec un Dani Olmo qui va venir sûrement embêter un petit peu cette paire de milieux défensifs. Koné, j'ai beaucoup aimé aussi sa manière dont il a joué sur le dernier match, la manière à récupérer les ballons. Il a gagné les duels, il a été dans un dépassement de fonction qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir de la part de ce joueur-là. Donc j'ai beaucoup aimé le joueur, j'ai beaucoup aimé la paire. Moi, sincèrement, et là je vais poser aussi la question à Franck, qui est un ancien joueur, comment, quand tu es Koné, que tu as fait une compétition comme il est en train de faire la Coupe du Monde, tu acceptes le fait de revenir sur le banc, même si c'est Tchouaméni, vice-capitaine? Non, mais aujourd'hui, il y a aussi la culture de l'instant, c'est-à-dire la performance de l'instant, et Koné, ce qu'il nous a montré, ça a été contre le Maroc le meilleur Français, de loin. Donc quand t'es Koné, tu t'appelles que t'as fait un bon match, que t'as été performant, est-ce que tu acceptes de revenir comme ça sur le banc si facilement? Moi, je trouve ça un peu...
C'est une vraie question. Il y a toujours une hiérarchie qui est mise en place avant la compétition, et c'est vrai que tu vois souvent, quand quelqu'un se blesse, revenir et l'autre partir sur le banc. Mais si t'as pas un Tchouaméni à 100%, qui est vraiment la solution, alors que tu l'as là, est-ce que tu Tchouaméni la solution pour aller rejouer? Puis alors moi, d'entendre comment on va faire pour gagner sans Tchouaméni, ça me rappelle des vieux souvenirs, tu vois.
Oui. tu l'as entendu pour toi. Oui.
Ouais, voilà. Mais si un joueur est international français et sélectionné par Didier Deschamps, c'est parce qu'il est Didier Deschamps pense qu'il est capable de jouer le rôle, et on voit que Koné est super. Et moi, je suis plutôt de ton avis, un Koné à 100% et en confiance est préférable pour l'instant à un Tchouaméni en doute qui revient de blessure.
C'est ça, parce que après, tu sais pas à quel niveau il va revenir.
Exactement. Et après, moi, je parlais de Barcola. Barcola, c'est super intéressant. Quand on sait que l'Espagne joue avec la vitesse qu'il a et l'espace qu'il y aura derrière la défense, j'adore Désiré Doué. Pour moi, c'est celui qui est le plus qui a le plus de dons, franchement, qui a des dons extraordinaires. Mais dans ce match-là, contre l'Espagne, je me demande si Barcola n'est pas plus intéressant parce qu'il peut aller surprendre derrière la défense avec sa vitesse de pointe et tout ça. Après, c'est Didier qui décidera. Je trouve qu'on a vraiment des problèmes confortables.
C'est clair.
Moi, je trouve Koné Rabiot, c'est mieux que Tchouaméni Rabiot.
Alors, moi, je préfère la paire Rabiot-Koné. Je suis d'accord avec Max. En revanche, le plus défensif des trois, c'est lequel?
Tchouaméni, bien sûr.
Bien sûr.
Dans un match où. Une des clés sera le milieu de terrain, ouais. Où eux risquent d'avoir beaucoup le ballon, Rodri, Pedri, Olmo, ouais. Où il va falloir garder un œil vraiment très discipliné sur Olmo, son positionnement, c'est un des joueurs les plus intelligents dans ce rôle de numéro 10 là.
Je suis d'accord avec toi.
Est-ce que c'est pas mieux d'avoir Tchouaméni et d'avoir un peu plus de cette sécurité là qu'un Koné qui a quand même plus tendance à se projeter vers l'avant parce que c'est là où il est très fort.
Je suis d'accord avec toi. Après, il faut aussi se poser la question à quel match l'équipe de France doit s'attendre. Ça va être un match de possession pour l'Espagne. On sait très bien que l'équipe de France, en tout cas moi c'est comme ça que je vois. Je
ça
sais
les
pas
arrange si... la France.
Exactement. Même. En tout cas moi je vois un match comme ça. Je vois un match de handball. Quand j'entends ça va être un match ouvert, pour moi j'y crois pas un instant. On a vu comment ça s'est passé d'ailleurs sur les quarts de finale.
On va retrouver le vrai Deschamps là, qui va attendre un peu plus.
C'est même pas ça. C'est qu'aujourd'hui tu sais pour contrer l'Espagne, tu sais la solution. La solution c'est de les prendre en transition offensive. En plus de ça t'as ce quatuor devant qui va à 2000 à l'heure. T'as une défense espagnole qui est très forte mais qui n'est pas la plus rapide. Donc en fait je m'attends à ce genre de match et je suis d'accord avec toi. Tchouaméni peut être en mesure de pouvoir contrôler Dani Olmo, mais la réalité c'est que si la France est en bloc médian, peu importe que t'aies Koné ou Rabiot, tu sais très bien qu'ils vont attendre le ballon. Et Koné il a cet avantage de pouvoir très vite jouer vers l'avant.
C'est
Est-ce
vrai.
Que t'as vu sa première touche de balle,
c'est
toujours vers l'avant et en fait avec ce quatuor offensif. Je trouve que Koné a cette possibilité de pouvoir faire le relais entre la défense et l'attaque. Non,
j'essaie de mettre dans la tête de Deschamps. Donc dans la tête de Deschamps, il se dit, bon déjà, je me fais violence, je mets quatre attaquants.
Ouais.
Ouais. Ça, ensuite, cool. Là, je vais devoir me refaire violence en me privant de mon mec le plus défensif.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Et on n'est pas qu'il nous fasse le délire de sortir à N'Golo Kanté demain quand même. Bon, j'y crois pas, mais...
Ah, ouais. Je pense qu'il y a l'expérience qui entre en jeu aussi.
Ouais, mais en l'expérience, c'est-à-dire du haut niveau.
De
Ah, merci Fabrice, tu me rassures.
Ah ouais. De ces grands matchs, Koné, ça reste un joueur qui joue à la Roma très bien.
Alors, d'accord. Il joue à la Roma, hein, il joue pas à Strasbourg, excusez-moi.
D'accord. Pardon.
Ouais, excuse-moi Franck.
On le choix à Ménis, on attend.
Il va pas bien, lui. Tu m'attaques par derrière ou quoi?
Le choix à Ménis, c'est finale de Ligue des Champions, c'est demi-finale d'Euro, c'est des matchs que Koné n'a jamais joué encore. Après, je te dis,
t'as pas tort. Après, c'est la culture de l'instant. C'est, tu récupères un Tchouaméni à combien de pourcents? Il l'a dit,
oui,
France. Aujourd'hui,
c'est ça le problème. T'es un joueur défensif, ok, le meilleur joueur défensif du milieu de terrain. Mais s'il n'est pas à 100% contre un Olmo, qui pour moi est un des meilleurs joueurs espagnols, il l'a prouvé encore le dernier match où il fait des trucs. Je trouve que c'est un génie lui aussi. Il sent le jeu tactiquement, techniquement, il sait tout faire. Si t'as pas un mec à 100%, si t'as pas un Tchouaméni à 100%, c'est un Barcelone-Madrid. Hein,
de toute façon, il ne le fera pas jouer s'il n'est pas à 100%, ça c'est sûr.
Donc, même si. 80%. Donc t'as ta réponse, t'as 4 mecs devant et t'auras pas le meilleur milieu défensif. Je pense pas qu'il mettra N'Golo Kanté. Maintenant c'est de savoir comment nos deux sur le côté Digne et Koundé vont jouer. Mais je pense qu'on va avoir une ancienne tactique à la Deschamps, c'est-à-dire on va attendre et on va les prendre en compte parce que c'est la meilleure tactique à avoir, je pense.
Et là, c'est intéressant parce que Franck a soulevé le problème, en tout cas la question Barcola-Doué. Moi, je pense que le problème, en tout cas la question que tu peux te poser entre Tchouaméni et Koné est finalement liée à la question que tu peux te poser entre Doué et Barcola. Je m'explique, je trouve que Doué, il a cette possibilité, cette capacité de pouvoir s'intégrer dans le milieu de terrain lorsqu'il va falloir défendre. Ouais. Donc en fait, si tu enlèves Tchouaméni et qu'en plus de ça, tu mets Barcola, là, je pense qu'en effet, Deschamps peut avoir des problèmes.
Comment c'est lié?
Lié, je sais pas, parce que j'avais posé la question d'ailleurs à Fabrice la dernière fois, est-ce que c'était lié si le fait qu'ils mettent Digne et Barcola ensemble, parce que tu te rappelles, ils savent fonctionner un petit peu en duo, en doublette. Finalement, il nous a montré que c'était pas forcément le cas. Donc, je pense pas que ça va être lié, mais en fait, si tu regardes d'un point de vue tactique, le fait peut-être de mettre un Barcola et un Koné ensemble, ça risque d'être un petit peu compliqué.
Fabrice, là-dessus, ton point de vue?
Non, mon point de vue déjà, c'est que Didier Deschamps, il a une chance, c'est que Koundé et Aurélien Tchouaméni s'entendent très très bien. D'ailleurs, ils partagent le même agent et il y aura pas de difficulté si c'est l'un ou l'autre. Même
tu
si
veux dire Koné,
un petit peu Koné, difficile. Ouais. Oui, Koné.
Même t'as si dit, je pense que c'est un petit peu plus difficile.
Non, Koné, pardon. Même si je pense que ce sera un petit peu plus difficile pour Aurélien Tchouaméni d'accepter si jamais Manu Koné est titulaire. Et de la même manière, Bradley Barcola et Désiré Doué s'entendent bien et c'est une situation qu'ils connaissent bien au Paris Saint-Germain. Je pense que la clé réside dans ce qu'a dit Franck. À partir du moment où Didier Deschamps n'est pas sûr à 100% qu'Aurélien Tchouaméni est justement en pleine possession de ses moyens, je pense qu'il y a un monde où Manu Koné démarre demain.
Ouais. Dans un instant, on continue le débat. On aura Benjamin avec nous. Et puis, tu vas nous raconter ce que t'as fait un super reportage là-dessus. Tu vas revenir sur ce qui s'est passé après l'Euro, au moment où, dans la tête de Deschamps, les choses ont changé, où il s'est dit, oui, je vais peut-être pouvoir jouer avec plus d'offensifs. Et en fait, vous allez voir que c'est les joueurs, quand même, qui ont eu un rôle prépondérant.
Ah, intéressant.
Intéressant. Ce sera dans quelques instants. Évidemment, l'after continue. On ira en direct de Manhattan, en direct du Café Luce, sous le soleil.
Je me suis fait avoir sur la place, tu vois. Il y avait trois mecs d'expérience.
Il est en train de cramer. Il est en train de cramer, là.
Qui ont pris l'ombre, ils m'ont laissé la place.
Ça s'appelle l'expérience. T'es trop jeune encore.
Ah ouais, j'ai pas été bon, là. Ouais, ça va.
On a de la crème solaire pour toi. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 22h19 en France, il est 16h19 ici à Manhattan où l'after s'est installé jusqu'à, on l'espère, dimanche et la victoire finale de l'équipe de France parce que la finale ce sera ici à New York dimanche soir. Bon, vous allez me dire, il y a quand même une demi-finale à gagner avant. On en parle justement avec Franck Leboeuf, avec Maxime Chanot, avec Julien Laurence qui sont là, avec Fabrice Hawkins qui est à Dallas donc et qui suit l'équipe de France. D'ailleurs, précision que demain le match Fabrice se jouera avec stade fermé, hein. Parce que le stade à Dallas, t'es pas sous le cagnard comme Maxime Chanot là à Manhattan.
Bronzé.
Effectivement, avec un petit peu de clim. D'ailleurs, il se ferme, mais pas totalement. Il y a un petit peu de clim, donc ça va faire du bien aux joueurs parce qu'il fait vraiment très très chaud ici, avec une espèce de chaleur étouffante. Et franchement, ça va leur faire du bien et ça va nous permettre aussi d'avoir une qualité de jeu sans doute meilleure avec deux équipes qui seront un peu plus fraîches.
Benjamin est avec nous au 32-16 pour parler d'équipe de France. Benjamin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, t'as entendu les incertitudes là, notamment au milieu. Est-ce que toi, ça t'inquiète de savoir que Tchouaméni est incertain ou tu te dis c'est pas du tout un problème, on a Koné qui est très bon?
Alors voilà, moi c'est pas un problème parce que quand j'ai là, en attendant que je passe en tête, j'ai regardé les statistiques de Koné et ça, ouais. Il a réussi 271 passes sur 282 en 4 matchs. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal en termes de milieu de terrain.
Oui, en effet.
Ouais, il suffit que les passes en arrière.
Ça dépend quel genre de passe c'est.
Ouais, mais c'est comme réussi. C'est comme réussi.
Non, ça veut dire, non, encore une fois, excuse-moi, c'est Franck, hein, mais si bonjour, tu, il y a des joueurs comme ça, on en connaissait, ils faisaient que des passes latérales, des passes en arrière, ils avaient 100%. Ce qui est beau avec Koné, et t'as raison de le signaler, c'est que lui, il, non, j'ai rien dit. Non, surtout pas. Mais surtout, je trouve que, et c'est Maxime qui le disait, à chaque fois, sa première touche, elle est exceptionnelle. Vers l'avant, c'est toujours vers l'avant, donc c'était bien de le faire remarquer.
Oui, donc la stat, elle vaut quand même.
La stat, elle vaut dans ce cas-là.
Oui, la stat, elle vaut plus pour Rabiot, pour le coup.
Il a gagné 15 ballons en 4 matchs. Moi, c'est un joueur que je connaissais peu. Et quand je l'ai vu contre le Maroc, il m'a impressionné. Parce qu'il a ratissé des ballons. Il a joué de l'épaule. Il a été au milieu box-to-box. Il a aussi bien de l'avant. Il revenait en défense pour rassurer ses défenseurs. Et quand on voit le stade et quand on voit l'assurance qu'il donnait sur le terrain, un Tchouaméni qui est blessé, qui n'est pas dans le rythme, qui n'est peut-être pas forcément non plus possible de jouer sous des chaleurs comme il y a en ce moment, moi, ça ne me dérange pas de garder Koné. Parce que jusqu'à maintenant, ça marche. Pourquoi changer?
Ouais, non, mais on est d'accord avec toi. Hein. Enfin, en tout cas, on en a discuté un peu plus tôt. Moi, ce que j'ai aimé par rapport à Koné, qui a vraiment été le meilleur français, hein. je ne sais pas si vous pouvez me contredire si je me trompe, contre le Maroc, ça a vraiment été le meilleur. On a tendance à toujours penser que Koné, c'est, je l'ai dit un peu plus tôt, le milieu relayeur qui est en mesure de pouvoir faire les transitions offensives, d'aller très vite vers l'avant. Mais il ne faut pas oublier, contre le Maroc, le nombre de ballons qu'il a ratissé, le nombre de duels qu'il a gagné, c'était incroyable. C'était le meilleur, c'était le meilleur défensivement. Donc il faut arrêter de penser que Koné ne sait uniquement attaquer avec le ballon et qu'il a des lacunes défensivement. Je trouve que ce n'est pas le cas, il nous l'a montré. Et surtout, je rappelle par rapport à Rabiot, on a critiqué Rabiot justement pour son manque d'allant vers l'avant. On parlait des passes réussies. Ouais. Hey, Rabiot, tu me parles, Franck, de mecs qui assurent leurs passes. S'il a tendance quand même à jouer très très simple. Et donc le fait d'avoir un Koné à côté de lui, je trouve que ça le décharge un petit peu de ce travail. C'est pas forcément le cas quand c'est un Tchouaméni qui est à côté, parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, mais Tchouaméni qui a un poste un peu plus défensif. Et ça oblige donc Rabiot à faire ces efforts-là. Et je trouve que dans ce contexte-là, c'est pas le meilleur.
Et moi, Benjamin, sur Barcola ou Doué, ton avis?
Moi là, plus sur Doué. Doué, je pense que... Alors, parce que Doué, il a rentré, il a marqué, il a provoqué. Mais pour moi, Doué, il a l'avance par rapport à Barcola. Je pense qu'il est vraiment sur une bonne phase. Et je pense qu'il est plus intéressant de Doué que par rapport à Barcola. Mais moi, ce que je voulais venir, c'est que... J'en parlais tout à l'heure avec le Standard. C'est que je pense qu'on n'a pas encore eu le but de notre défense. Vous savez, on a eu Thuram en 98, on a eu Titi. Et on n'a pas encore eu le match où c'est la défense qui nous fait gagner le match sur un coup franc, sur un corner.
Tu nous dis qu'Oupa Mécano marque sur corner demain?
Et voilà. Blanc contre le Paraguay.
On n'est pas très bon, c'est plus arrêté malheureusement.
Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure. Et moi, je pense qu'il nous manque ce match où c'est pas un Pavard qui nous marque une frappe de loin. Il nous manque ce match où c'est compliqué, on n'y arrive pas. Et derrière, la défense, ils arrivent, ils mettent un gros coup de tronche et ça finit dans la lucarne. Et on gagne peut-être 1-0. Mais c'est les défenseurs qui nous font gagner. Et ce match-là, il nous manque aujourd'hui dans la Coupe du Monde. Et je pense que demain, ça peut être ce match où on parle de Yamal, on parle d'Embélé, on parle des offensifs, mais on ne parle pas beaucoup de la défense, dans le sens, ils vont monter et ils vont montrer qu'ils existent. Et moi, je pense que c'est ce match-là... Parce que,
je veux dire, un but demain, à la Franck Leboeuf contre Nantes pour arrêter la massivité.
Voilà, à peu près ça, mais
de la tête.
Personne ne s'en rappelle. Mais non, mais Sergio Ramos était fidèle à ça, où quand les matchs avec le Real Madrid ou l'Espagne, où ils n'arrivent pas à gagner, et Sergio Ramos mettait sur
un
grand
joueur de la tête. Hein,
voilà. On a eu le débat avec Samuel Umtiti et Rafa Varane d'ailleurs, hein, ouais. qui avait fait gagner l'équipe de France en 2018. Exactement. C'est vrai, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à Upamecano et Saliba. Bon, alors pour l'instant, ils n'ont pas le besoin. Hein. L'équipe de France marque sans eux.
Surtout qu'ils fassent leur boulot d'abord. Voilà. Ils font vraiment bien leur boulot.
En tout cas, peut-être la différence, si cette paire de défenseurs centraux veut vraiment devenir les meilleurs, c'est peut-être justement être décisif sur certains matchs. Ça sera peut-être le cas contre l'Espagne. Mais bon, je m'attends à avoir quand même des buts de la part du quatuor offensif. Parce que quand tu vois un petit peu l'armada qu'on a devant.
Ouais. On va en parler. Justement, c'est intéressant, Fabrice. Donc, tu es rentré un peu dans les coulisses des Bleus, là. Et on retrouve ça sur rmcsport.fr. Une enquête qui raconte comment une discussion, donc après l'Euro 2024, a fait changer Deschamps dans sa façon de voir les choses offensivement. Raconte-nous.
Oui, parce qu'il avait déjà des petits doutes aussi forcément au sortir de l'Euro 2024 qui s'est pas bien passé, vous vous souvenez, avec Olivier
c'est Roux, l'Espagne qui nous a éliminés, je le rappelle.
En demi-finale, bien entendu. Et donc, suite à cette élimination, il y a eu une remise en question. Et juste avant le match de Ligue des Nations contre la Belgique, c'était à Lyon, souvenez-vous, le 9 septembre. Donc la veille de ce match, le 8 septembre, il y a une discussion qui s'est tenue dans le vestiaire de Lyon, donc autour de Didier Deschamps, où il a convoqué tous les joueurs. Discussion à huis clos, parce que, et ça c'est assez rare quand même, tout le staff est sorti. C'était vraiment Didier Deschamps et ses joueurs, pas une personne de plus, pour éviter notamment les fuites. Et d'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions, parce que à l'époque, simplement pour vous donner la coulisse,
il y avait un entraînement.
Surprenant. Ouais.
Il y a un entraînement qui devait se tenir et en fait, il a été repoussé. On attendait, nous journalistes, et les minutes passaient, les minutes défilaient, on comprenait pas pourquoi l'entraînement prenait du retard. Et en fait, il y avait bien cette réunion qui avait lieu au même moment où, en gros, les joueurs ont parlé à Didier Deschamps de manière assez direct, assez franche aussi. C'est Kylian Mbappé qui s'est chargé retranscrire la parole du groupe en expliquant qu'il y avait des choses qui s'étaient mal passées, qui comprenaient pas toujours certaines consignes, notamment lors du match France-Espagne, donc la demi-finale perdue, qu'ils avaient l'impression d'être parfois perdus, que l'Espagne avait vraiment le dessus et qu'il manquait de clés surtout. Et le message fort en fait derrière tout ça, c'était si on continue comme ça, l'objectif final, qui était l'objectif de tout le monde déjà à l'époque, c'était la Coupe du Monde. Et eux disaient, on n'y arrivera pas comme ça, il faut vraiment qu'on change des choses. Et Didier Deschamps a entendu ce message. Bien évidemment, il avait déjà repéré qu'un certain nombre de choses n'allaient pas. Et ça a permis comme ça de construire, année après année, jusqu'à cette Coupe du Monde, l'équipe de France telle qu'elle est construite aujourd'hui, donc avec quatre offensifs.
Tu peux me dire ce que tu
Attention,
veux.
Attention, il n'y avait pas Olysée à l'époque. Hein.
Exact, c'est exactement ce que je veux dire. Tu peux me dire ce que tu veux, des changements, etc. Olysée, c'est un don des dieux du football.
Ouais.
Et ça arrive, ça lui arrive sur une les Anglais disent on a plate, mais
sur un plateau
doré, un
plateau. Nous, c'est plus grand, c'est plus grand.
Voilà, c'est ça. Et pour moi, c'est ça qui change tout. Alors oui, la discussion, Fabrice, on était ensemble en Allemagne, il y avait des joueurs qui étaient déjà pas contents, même à la fin, même avant l'élimination contre l'Espagne, déjà dans la façon de jouer, dans certains entraînements, dans certains côtés très tactiques de Deschamps, là pour le cas vraiment conservateur et vraiment très à l'italienne, on va dire. Mais après Olysée, il change tout. Olysée, il change absolument tout, parce que je sais pas qui aurait joué dans cette position de 10.
Qui aurait joué 10, surtout que je parle de quelque chose qui était très important aussi, c'est le match contre la Croicie l'année dernière.
Olysée
en numéro 10, il marque le coup franc, il anime le jeu, et là il se rend compte aussi qu'Olysée, qui joue à droite, notamment en Crystal Palace et par la suite au Bayern Munich, il se rend compte que finalement son poste, là où il peut magnifier cette équipe de France, c'est dans ce rôle de numéro 10. Donc il y a eu plusieurs temps, c'est pas seulement la réunion, il y a eu ce temps-là, il y a eu ce match-là contre la Croatie très importante qui a révélé Michael Olysée en numéro 10, et puis il y a eu ce match de Ligue des Nations de cette demi-finale aussi perdue contre l'Espagne 5-4, où le staff s'est dit ok, on a perdu ce match-là contre l'Espagne, mais ce qu'on retient quand même, c'est que ça marche mieux quand on joue avec 4 offensifs plutôt que dans un 4-3-3 classique avec 3 milieux à vocation 3 milieux de formation.
Tu peux me rappeler la discussion, elle a lieu quand?
Elle a eu vraiment dans la foulée en septembre donc, 2024. C'est vraiment dans la foulée de l'Euro.
Septembre, octobre 2024. Parce qu'en fait, moi, je me souviens du changement de Didier Deschamps. Ouais, d'accord. Ouais, ça part par là. Parce que le changement de Didier Deschamps, il y a donc ce match aller-retour où est-ce que la France perd 2-0 contre la Croatie. Et c'est sur le match retour qui change. Mmh. Et c'est à ce moment-là que la France gagne 2-0, gagne au pénalty, se qualifie pour le dernier carré de la Ligue des Nations. En fait, ce mouvement, en fait, il arrive à ce moment-là. Il fait rentrer Olysée. Et c'est le début de l'histoire. Mais c'est intéressant. Donc, en fait, il lui a fallu de septembre jusqu'à mars et une défaite contre la Croatie
pour vraiment mettre ça en place alors qu'il avait les forces quand même en présence.
Après, mais moi, je vais être honnête. Hein, aussi, Max, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a, pas mal de. Souvenez-vous, juste après l'Euro, le nombre de rassemblements où il n'a pas Kylian Mbappé, où il n'a pas Ousmane Dembélé, où vrai, l'un est blessé, monde, l'autre, il y a quelques soucis c'est avec vrai. Les clubs. Donc, il y a eu ce temps d'adaptation aussi.
Okay, ouais,
moi j'étais convaincu qu'il allait repasser au 4-3-3 là maintenant. Demi-finale,
la première grosse équipe.
Voilà, moi j'étais convaincu qu'on aurait un Tchouaméni, Koné, Rabiot au milieu de terrain et que on mettrait tout sur le banc et qu'il entrerait en.
Moi je m'attendais à ça parce que c'est légal pour te dire la vérité.
Ouais, mais moi, c'est pas aussitôt, mais je me suis dit à un moment il va revenir un peu comme Aimé l'avait fait.
Ouais, c'est vrai. Mais vu ce que tu as comme dispositif avec les 4 devant. Enfin, ça aurait été suicidaire. Enfin, au niveau médiatique, ça aurait été suicidaire.
T'as quatre... Là, c'est de l'anti. C'est quoi? Tu vas contre le foot, en fait, parce que les mecs qui sont là, c'est aurait été aberrant.
T'as quatre joyaux et tu peux rajouter Barcola et Cherki en plus, tu vois. Donc, pourquoi t'en priver? Enfin, c'est quand même. On n'a jamais eu ça. Enfin, on a eu des grands joueurs, mais tous au même temps, à 100%. Mais faudrait être fou pour pas s'en servir. Enfin, tout le monde en a peur. Tout le monde dit ok, on va attaquer. Vrai, les Espagnols disent on va y aller. Bah ouais, t'y vas, mais tu regardes derrière parce que quand, si t'y vas trop vite, tu vas prendre un retour.
Bon, Fabrice, ton enquête est sur rmcsport.fr. Merci en tout cas pour toutes les infos. Et
avec
demain.
Avec plaisir.
On va trouver ton jingle
avec
là.
Demain.
T'as ton charme de cowboy aussi ou pas encore?
Et la perruque de JR.
Pour les plus jeunes, ils ne savent pas de quoi on parle en fait. C'est quoi ce truc? C'est quoi leur délire?
Tu sais que j'ai revu tous les épisodes de Dallas il n'y a pas longtemps.
Bah, t'es si vieux que ça, Franck?
Moi je suis vieux.
Ouais, faut pas, tu te fais du mal à toi-même.
Je te rappelle que on était tous là. Qui a tiré sur JR quand même? C'est quand même un truc extraordinaire.
Fabrice, si vous voulez nous dire un dernier truc, je crois, avant de partir.
Ouais, c'est le dernier, dernière petite coulisse là, sur l'entraînement qui a eu lieu. Bah, on n'est pas vraiment plus avancé parce que Tchouaméni et Koné ont joué une mi-temps de l'opposition. Bradley Barcola et Désiré Doué aussi. Donc le flou reste intégral.
Ah,
c'est Didier, il est trop fort quand même. Donc,
est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même vraiment 13 titulaires dans cette équipe de France?
On peut.
Ah ouais, avec Gucci,
parce que quand tu regardes.
Et Doué, quoi, c'est ça que tu
veux. Ouais, et on joue à 13 alors, j'ai envie de dire.
On aurait pu dire 14 avec Théo Hernandez.
Reprendre un titre célèbre.
Ouais, un peu moins.
On joue avec 26 titulaires en fait.
Merci Fabrice, bonne soirée. Autre info qui moi me ravit, l'équipe de France va jouer en bleu blanc rouge demain. Moi j'aime bien quand c'est
moi j'ai regretté que le jour du 4 juillet quand ils ont joué, on a créé un maillot bleu avec pour expliquer la statue de la liberté, tout ça, le Bartholdi et tout, et je trouve ça
c'est le vert ça.
Mais pourquoi ils ont pas joué ce jour-là du 4 juillet avec ce maillot-là? J'ai été super déçu en fait.
Oui, c'est vrai.
Ça a été fait exprès pour cette Coupe du Monde. Le 4 juillet, on a un match et tu joues avec le maillot bleu. Bah, j'ai pas compris. Bah, bon, vas-y, continue.
Là, demain, c'est bleu.
Bah, ça, c'est bien.
Et la minute de silence aussi pour les victimes de Nice il y a 10 ans maintenant. C'est très bien aussi.
D'ailleurs,
même Emmanuel Macron s'est félicité et a remercié Gianni Infantino. Il a pas dit I call Gianni. Il aurait pu.
Because I know football.
Tu sais qu'on a lancé un t-shirt I call Gianni, ça cartonne. Hein.
Bah,
on aurait pu faire le t-shirt de Macron maintenant.
Ça restera, c'est pour l'éternité.
C'est pour l'éternité du ridicule.
Malheureusement.
C'est comme ça. Et puis, alors, l'arbitre demain. Il s'appelle Ivan Barton, aucun lien avec l'ancien joueur de l'OM, je précise. Voilà, n'y voyez pas une quelconque malice. Il est salvadorien. Et alors, c'est lui qui avait exclu le joueur paraguayen qui a mis la main devant la bouche, là.
Almiron.
Almiron, la fameuse nouvelle règle.
Très bien.
Donc, demain, du coup, faudra faire gaffe.
Si tu dois dire quelque chose, tu ne te caches pas la bouche, quoi.
Voilà.
Le problème, c'est que les joueurs ont l'habitude de faire ça, même pour parler entre eux. Moi, ils le font.
Je trouve ça fou, ces problèmes d'haleine dans le football, quand même.
Il y a vraiment problème.
Il y a un vrai problème d'aller.
Une petite listerine, on en trouve pas mal ici. Et là, ça passe facile.
Bon, on va se faire un petit peu peur, messieurs, à 22h33. On va retrouver Florent Germain, qui lui, évidemment, suit l'Espagne. Je dis évidemment, pour nous, c'est évident, parce qu'il est. Il a un tropisme espagnol, Florent. Et il est
salut
avec
les
nous.
Amis.
Salut Florent.
Salut Florent.
Je suis les Bleus, mais là on a fait une petite parenthèse avec l'Espagne. Mais on continue d'être d'abord au suivi de l'équipe de France. Il y a aucun souci là-dessus. Alors j'y étais tout à l'heure à l'entraînement, à la zone mixte. Gilbert, je les ai trouvés assez confiants les Espagnols. Alors pas aussi confiants que la Cadena Copé qui a fait un petit jeu, à savoir qui on prend entre Maignan, Unai Simon, et ils ont continué le 11 comme ça. Ils ont pris que 3 Français. Sur le
ils sont sérieux.
Donc, j'ai un peu halluciné.
Ils ont mis Koubarsi
et Laporte devant Upamecano et Saliba, ce qui m'a fait très mal dormir.
j'ai eu quelques convictions.
Par contre, Cucurella, je le prends.
Cucurella, tous les jours.
Cucurella, je le prends.
Même Pedro Porro.
Pedro Porro, c'est
donc le Cucurella. Par rapport à ce qu'a montré Colin. Sur le tournoi, ouais.
Attends, Flo, excuse-moi, tu nous as lancé un truc, faut qu'on réponde à.
Je savais que vous alliez être chaud bouillant sur le dossier, donc j'ai fait exprès. Du coup, le fil conducteur a totalement sauté.
Au milieu, il peut y avoir débat quand même.
Il y a débat.
Les jours, bien sûr.
Je suis désolé, mais j'aime beaucoup Rabiot, Koné, tout ce qu'on veut, Tchouaméni, mais.
Pedri.
Oui, mais si tu te bases sur la Coupe du Monde. Faut se baser sur la Coupe du Monde.
Je préfère donner.
Tu gardes Rodri alors ? Tu gardes Rodri, sûr.
Rodri, on l'a.
Et tu mets Rabiot, parce que Rabiot fait une grosse Coupe du Monde quand même.
Jamais Rodri tous les jours.
On en prend trois.
Oui, mais Rodri et Rabiot.
On en prend deux, parce qu'on joue comme l'équipe de France, nous.
Ouais, 4
on prend deux et après tu fais un.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on prend, Correa et Pedro et Rodri.
Et Unai Simon, non, vous le prenez pas.
Et Yamal, non, tu le prends pas, Yamal.
Je vous prends Unai Simon.
Est-ce
qu'on peut prendre Raya?
Ah ouais, c'est une autre histoire. Non, mais si.
Moi, je garde Magic Mike.
Ah ouais?
Oui, moi aussi.
Et
devant?
Non, mais devant, on n'en veut pas.
On est obligé.
Avec ouais,
mais tu vas prendre la Miami à la place de qui?
À la place de Doué. J'adore Désiré Doué.
Non.
Il a mis un but de la tête, il a eu un pénalty.
La Miniamal, depuis le début de la Coupe du Monde, ne me dit pas qu'il est au niveau de la Miniamal il y a un an ou deux ans. Non, je préfère Doué ou Barcola.
Demain, il va faire très mal.
Vous laissez Dani Olmo.
Moi, je garde les quatre Français.
Après, Dani Olmo, on ne va pas prendre. C'est Olmo ou Olise?
Tu mets Olise sur le côté dans ce cas-là et tu mets Olmo.
Alors, nos amis de la Coupe ont un peu triché parce qu'ils ont comparé Doué à Yamal. Non, je dis nos amis de la Coupe ont un peu triché parce qu'ils ont comparé Doué à Yamal. Alors que normalement, si tu suis le Quatuor, tu dois faire le match Yamal Dembélé. Et du coup, ils ont un peu triché. Ils ont fait Doué Yamal et ils ont mis Yamal devant et après, ils ont mis les trois Français. Donc, les trois seuls qui étaient retenus, c'était Olise, Dembélé et Kylian Mbappé. Mais bon,
alors, tu leur diras que nous.
Un peu abusé, notamment par rapport à la charnière centrale. Alors, c'est quoi la réponse de Rodin, justement, si on doit. On est dans le même hôtel que eux, on va aller leur dire.
Tu vas leur dire, vous avez fait preuve d'une mauvaise foi absolue en prenant
que
deux Français.
Alors que nous, Français, jamais.
On est beaucoup plus fair play et on connaît mieux le football. On connaît mieux le football. Donc on prend les deux latéraux espagnols.
Et Rodri.
Rodri.
Et Lamine.
Tout. Mais non, Lamine, tu le mets où? Mais tu le mets où, Lamine Yamal?
Et on prend Yamal pour le dernier quart d'heure. Voilà, tu peux leur dire ça.
Et donc Dani Olmo, vous le laissez.
Mais bien sûr, on le laisse.
Un joker.
Messieurs, arrêtez.
Mais non, mais c'est pas parce qu'il a la même coupe de cheveux que toi. Il prend. Qu'il faut le prendre.
T'es sûr, tu veux qu'on parle de cheveux?
Ben oui, justement. Quelquefois, il vaut mieux pas en avoir.
Ah oui.
Tu sens le message?
D'ailleurs, Franck, t'as pas un conseil pour Max parce que je sens qu'il a peur sur
il est en recherche.
Il est sur un entre-deux.
Il est en recherche, barbe, de cheveux.
Et puis comme je me rends compte qu'à RMC, visiblement, tous les acteurs n'ont pas énormément de cheveux. Gilbert Franck.
Il y en a un qui se bat.
Je cite pas de nom, mais il y en a un, ça commence aussi à se dégarnir. J'ai compris que je suis sur le chemin.
Maintenant qu'on a répondu à la copée, quelles sont les dernières infos à savoir, Flo? Côté espagnol.
Bah écoute, oui. Alors j'étais à l'entraînement, je les ai trouvés effectivement très détendus, assez relax. Beaucoup de sourires. C'est l'anniversaire de Lamine Yamal aujourd'hui. Il a que 19 ans, hein, donc c'est assez dingue. Mais il s'est un peu fait chambrer, féliciter, etc. Nico Williams qui revient aussi en forme avait l'air plutôt en jambes. Les petites dételas, donc on a vu Pedro Porro et Alex Baena. C'est qu'on est conscient qu'il y a un match au niveau du style de jeu, évidemment. Et l'Espagne se sent forte dans la capacité à, comme ils disent, robar la pelota, donc voler le ballon aux Français. Ça, c'est revenu dans toutes les déclarations. En fait, on estime que c'est la clé du match. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Alex Baena en disant nous, on a la clé parce que si on arrive à garder notre style de jeu, normalement, on peut battre tout le monde et on peut battre cette équipe de France. Il y a les confrères espagnols qui ont essayé de faire monter la sauce par rapport à qui est favori. Est-ce que les Bleus se voient pas trop beaux? Honnêtement, Baena et Porro sont pas tombés dans le panneau. On verra. Quel sera le discours en conférence de presse dans un instant de Lamine Yamal et de Luis de la Fuente qui sont annoncés en prise de parole. Donc, j'ai senti quand même de la sérénité, faut le dire, chez les Espagnols et notamment le fait qu'on attend et on espère que Lamine Yamal va véritablement lancer non pas sa Coupe du Monde parce qu'il a fait quand même un bon quart de finale globalement. En tout cas, il monte en puissance.
Ouais, je suis d'accord.
Et on estime qu'une vraie Coupe du Monde de l'Espagne peut pas se faire sans qu'il y ait un exploit de Yamal dans un gros match et donc tout le monde croise les doigts du côté des suiveurs et même au sein de la sélection parce que les deux joueurs en ont parlé pour que ce soit le soir de la Lamine Yamal. Donc on espère que ça va pas être le cas mais c'est beaucoup revenu la tension envers la star espagnole.
Et là où je suis d'accord, je pense que la possession peut être la clé du jeu de l'Espagne pour pouvoir gagner contre l'équipe de France, mais ça peut être aussi la clé pour l'équipe de France. On l'a vu contre le Maroc, lorsqu'ils ont essayé d'avoir la possession, les Français avec les transitions offensives, avec la verticalité qu'ils ont, je pense qu'ils ont tout à gagner à laisser l'Espagne avoir le ballon et attendre l'erreur technique et derrière se projeter à 2000 à l'heure. On connaît les flèches qu'on a devant. Donc ça va être intéressant, ça va être intéressant. Juste une petite aparté, parce que moi je m'attends vraiment à un match fermé. Tout le monde a dit ça va être un match ouvert. Regardez la Nation League, t'es en demi-finale de la Coupe du Monde. Est-ce que t'as vu les de finale de Coupe du Monde, les premières mi-temps, elles ont été honteuses, imbuvables, on s'est ennuyé, ça va être la même chose. Donc préparez-vous, messieurs.
Alors c'est PSG Bayern.
Ah ben comme ça. Ouais, mais tu penses pas en demi-finale de
Coupe. Demi-finale de Champions League, tu
vas voir des matchs. Pour moi par exemple, Cucurella et Porro, ça peut pas être aussi offensif que ce qu'on a vu pour l'instant dans la Coupe du Monde.
Ça, bien sûr que non.
Pas demain, c'est pas possible, il y a trop de risques à prendre, il y a trop de déséquilibre à créer finalement à la perte du ballon surtout.
C'était d'ailleurs ma question, Julien, à Pedro Porro, je lui ai posé exactement cette question-là. Est-ce qu'ils peuvent garder leur style de jeu et ce naturel aller de l'avant, lui et Cucurella? Il a reconnu, bon, sans dévoiler les clés et le discours de Luis de la Fuente, qu'il fallait forcément s'adapter face à l'équipe de France, parce que tu peux pas laisser les côtés avec autant d'espace si tu as en face un Barcola ou un Doué ou un Dembélé ou un Kylian Mbappé qui prendrait un peu la profondeur, ce qui est aussi souvent le cas. Donc c'est vrai que ça a été ciblé comme l'un des enjeux de la rencontre, le fait qu'il faudra peut-être moins attaquer quand même et être plus prudent. Donc je ne sais pas si ça va dans le sens de ce que dit Maxime, mais en tout cas lui-même, Pedro Porro, a reconnu qu'il fallait être prudent et s'adapter par rapport forcément aux forces en présence chez les Bleus.
Et la tendance côté Espagne, c'est de voir Baena titulaire ou alors plutôt une rentrée de Nico Williams. Certains disaient que justement il le gérait jusqu'à potentiellement cette demi-finale, parce que alors ça change aussi le jeu de l'Espagne. Hein. Ouais. On l'avait dit. Hein, si tu remets dans le contexte par rapport à l'Euro 2024, l'Espagne était incroyable parce que finalement le danger arrivait du côté de Yamal et aussi Nico Williams. Là avec un Baena, c'est un petit peu différent. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être une force pour l'équipe de France. Tu te concentres, tu fais le 2 contre 1 côté Yamal et tu sais que Baena il a quand même moins de verticalité. C'est quand même beaucoup plus facile de descendre sur lui. Par contre, si Nico Williams devait être titulaire, je pense que ça serait un peu plus problématique pour les Bleus.
J'en ai parlé avec les confrères espagnols qui me disent que Nico Williams est plutôt encore comme impact player pour entrer en cours de jeu et voilà, c'est dans une dernière demi-heure faire mal peut-être aux Français. Donc Baena tiendrait la corde. La seule incertitude, c'est Fabian Ruiz ou Pedri.
Fabian, ouais, j'allais poser la question justement.
Oui, parce que Fabian Ruiz fait un bon match, en plus il marque. Malgré tout, Pedri, ça reste l'un des joueurs majeurs de cette équipe, même s'il fait pas une grande Coupe du Monde. En tout cas, il est un petit peu emprunté ou fatigué, mais très honnêtement, et je m'en suis référé à des confrères qui suivent de très très près la sélection espagnole, eux m'ont dit qu'ils avaient encore ce petit point d'interrogation pour savoir si c'était le Parisien ou le Barcelonais qui allait débuter.
Mais si t'es dans l'optique du match un peu plus fermé, même si t'es de la Fuente, tu peux aussi mettre Fabian, Pedri et Rodri et avoir Olmo qui sort du banc à l'heure de jeu si
tu
le match
pas,
est
tu peux fermé. Pas, c'est pas possible.
Il l'a fait aussi.
Oui, mais je l'entends. Mais vu la compétition de Dani Olmo, honnêtement, c'est pour moi.
Pour moi, c'est la clé. Olmo, c'est la clé. Plus que Lamine. Mais pourtant, demain, je m'attends à un gros match de Lamine parce que je pense que d'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est pas anodin du tout qu'il vienne en conférence de presse. Maintenant là, alors que d'habitude c'est les capitaines.
Lamine est beaucoup touché par tout ce qui se dit sur le trio offensif ou le quatuor offensif de l'équipe de France. Et ça le dérange un peu. Il est en recherche un peu de légitimité, où je trouve que on a vu ses sorties médiatiques où il dit oui, mais nous aussi on est très fort devant. Ben d'accord, mais ce qu'on voit, il y a personne qui est plus fort que l'équipe de France en ce moment sur les lignes avant. Alors bien sûr que Lamine Yamal en pleine forme est un atout extraordinaire pour l'équipe d'Espagne, mais pour l'instant il l'a pas démontré. Et moi je trouve que le discours qu'ils ont les Espagnols en disant si on garde notre football, ça va le faire. Tu joues contre l'équipe de France, je suis désolé, en ce moment, tu peux être de la Fuente avec n'importe qui, ton équipe, tu vas devoir t'adapter aux atouts offensifs de l'équipe de France. Donc tu pourras pas aller faire comme tu fais d'habitude.
Tu penses?
Mais bien sûr, pour moi, de la Fuente, il joue à la roulette russe. Mmh. S'il commence à dire à Cucurella, Pedro Porro, c'est bon les gars, on y va, à fond les gamelles, vas-y, parce que tu vas te prendre un retour de bâton monumental. Et si t'es intelligent, et de la Fuente, c'est un gars intelligent, il va dire à Cucurella et Pedro Porro, bon les gars, on calme le jeu, on attend.
En tout cas, la première demi-heure,
c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, ça va être un match fermé pour moi, c'est trop tactique. Tu peux pas jouer, ou alors tu fais un Paris Saint-Germain Bayern Munich sur un match, mais sinon tu peux pas jouer avec des deux équipes qui vont aller c'est parti la fleur au fusil. Non, ça va, c'est une demi-finale de Coupe du Monde.
Merci Florent.
Merci Gilbert. Et t'as encore les félicitations de Jeff Perez qui est à mes côtés pour la très bonne entrecôte argentine apparemment choisie vers dans la banlieue de New York, New Jersey. On a on a quelques petites infos. Ah ouais, Jeff Perez m'a dit qu'il s'était régalé à tes côtés, que t'avais les meilleures
c'est
adresses.
Sérieux, et, la maison sur foot, c'est du sérieux. Voilà.
C'est pas plein d'ONG là, je crois quoi, l'avion d'Argentine là, c'est pas...
Oui, bah, faut pas trop regarder, tu la manges et puis après tu la digères et puis voilà. Merci, merci Flo. Ciao. Dans un instant, ce débat, si l'équipe de France ne gagnait pas cette Coupe du Monde, vu l'état des autres équipes à ce stade de la compétition, ouais, est-ce qu'il faudra considérer ça comme un échec? On en débat dans un instant dans l'after. A tout de suite.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 16h46 ici à New York, dans notre studio du Café Luce. Vous pouvez venir nous voir si vous êtes dans le coin. On sera là quelques jours encore, évidemment, en plein Manhattan, dans le quartier de Hell's Kitchen. Tu sais, la cuisine du diable.
Ouais.
J'adore ce nom.
Pourtant, on y mange très bien.
On y mange très bien, exactement. Pendant ce temps-là, Franck Leboeuf a fait un tacle glissé à quatre bouteilles d'eau et trois verres.
T'as absolument rien perdu.
Il a rien perdu.
Ça vaut un jaune, ça.
Mais là, il a rien perdu. La VAR
il a cru que c'était Ronaldo.
Il a tout cassé.
Donc, Franck Leboeuf est là, Julien Laurence est là. Et Maxime Chano est là. Tiens, allez sur la chaîne YouTube, vous verrez la rue new-yorkaise. Il y a même un school bus jaune qui est en train de passer. Là, t'as pas vu le cliché. Sur YouTube.
Très, très bien installé.
Il y a quelques instants.
Beaucoup de chance.
Bon, Fabrice Hawkins, à l'entraînement, revient. Fabrice, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends bien.
Ah, voilà. On termine ton jingle. Avec une info ou une observation à l'entraînement, peut-être?
Ah oui, c'est un petit peu ce que je vais commencer à vous dire, c'est-à-dire que le flou va être complet jusqu'à demain. On a un petit peu observé ce qui s'est passé, puisque l'entraînement était fermé aux médias, mais on a réussi à savoir ce qui était passé, et donc confirmation qu'il n'y a pas d'indication claire sur qui va jouer au milieu du terrain entre Aurélien Tchouaméni et Manu Koné, et même chose entre Bradley Barcola et Désiré Doué dans le couloir gauche. Alors, ils ont fait une opposition et chacune des deux paires a joué une mi-temps, sachant que c'est Bradley Barcola qui a commencé à gauche et Aurélien Tchouaméni qui a commencé au milieu. Est-ce que c'est une indication? On en recevra un petit peu plus plus tard, j'imagine. En tout cas, pour le reste de la composition d'équipe, il n'y a pas de surprise, évidemment. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Digne derrière. Adrien Rabiot, évidemment, au milieu du terrain. Et puis Kylian Mbappé, Olise et Dembélé, bien entendu. Eux, ils seront titulaires, il n'y a pas de souci.
Oui, il a dit l'entraînement, c'est impossible. C'était fermé aux journalistes.
Oui, mais
ça, c'est pas fermé, en fait.
Il s'appelle Fabrice Hawkins, les gars. Nous, on a des gars, c'est les meilleurs.
Allez, Sherlock Holmes, quoi.
Le faucon, il est au-dessus du stade. Il survole.
Il vole au-dessus du terrain.
Autre petite coulisse, Kylian Mbappé qui s'est entraîné à part. La majeure partie de l'entraînement, il l'a vraiment effectué à part avec Cyril Moine, le préparateur physique. Alors, il n'y aura pas de souci, il sera titulaire demain. Mais il y avait une volonté de le protéger, peut-être.
Réserver un peu
au coup qu'il a reçu, exactement, qui soit vraiment tranquille. Donc il a fait plus des
le fameux coup sur le pied
de passe longue. Ouais. Voilà, exactement, cette cheville là qui est toujours un petit peu douloureuse, en tout cas qui est fragile depuis de nombreuses années maintenant.
Depuis le fameux choc avec le Stéphanois Perrin.
Ah ouais, c'est ça.
La date
de France en 2020.
Ouais. Et après tu te traînes pendant des années derrière des petites faiblesses.
Et une bonne nouvelle concernant moi, j'ai envie de parler de Lucas Digne. Parce que c'est vrai qu'il nous a finalement donné des certitudes au bon moment, notamment contre le Maroc. Il a quand même contré Hakimi, qui est peut-être l'un des meilleurs arrière droit. Donc c'est vrai que dans l'optique de ce match contre Yamal, d'avoir un Lucas Digne qui arrive à un niveau respectable, en tout cas intéressant, je pense que c'est de bon augure aussi pour eux.
D'ailleurs, Fabrice, puisque tu es là, Lucas Digne au PSG, c'est une autre info du jour que tu as donnée. C'est quasi fait, c'est fait. Enfin, qu'est-ce que tu peux en dire ce soir?
Ouais, on peut pas dire que c'est à 100% fait, mais en tout cas, il va signer au Paris Saint-Germain. On vous le disait depuis plusieurs heures maintenant. D'ailleurs, il s'est fait chambrer par tous ses coéquipiers parce que le vestiaire du Paris Saint-Germain, enfin de l'équipe de France, lapsus révélateur, commence à ressembler de plus en plus au vestiaire du PSG, avec déjà Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola.
Surtout que Lucas Hernandez, il va pas sauter de joie, quoi.
Et maintenant,
ouais,
ça se répondra à son départ, d'ailleurs. Ouais. T'as raison,
bah oui.
T'as raison, Gilbert. Faudra suivre cette situation. Alors, en tout cas, ils l'ont chambré. Voilà, ils l'ont chambré parce qu'ils ont vu dans la presse derrière. Bah, évidemment, il aura confirmé puisque c'est la réalité. Il a un accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de 3 ans. Maintenant, il reste simplement au Paris Saint-Germain de lever la clause parce qu'il y a une clause à Aston Villa qui est inférieure à 10 millions d'euros. Et ça, ce sera fait une fois qu'il sera libre. En gros, une fois que la France.
Et Mendes, il s'en va.
Non, mais il accepte.
Non, et c'est, non, mais c'est intéressant. Sera le backup, sera le.
Il va jouer
sur le banc. Ouais, mais il y aura assez de temps de jeu. On a vu cette saison. Luis Enrique fera encore plus reposer. Certains comme Nuno Mendes maintenant qui a une vraie alternative au poste d'arrière.
Mais la question c'est de savoir si Lucas Digne accepte ce rôle-là au Paris Saint-Germain en étant international titulaire. Est-ce que tu as envie de venir en étant numéro 2
titulaire? Alors ça va mieux avec Aston Villa, mais à un moment il y a une période qui
sur la fin, il jouera 35 matchs quand même. Il jouera 35 matchs.
C'est une très bonne question, mais en fait il l'accepte pour deux raisons. D'abord parce que il choisit ce projet-là aussi parce que c'est un projet qui sied à merveille à sa famille. Ça va être un cadre familial très français, évidemment très parisien, et dans sa famille ils adorent la capitale. Il a même des enfants qui sont fans du Paris Saint-Germain, donc tout le monde est content que papa signe au Paris Saint-Germain. Et puis il arrive aussi
soyons directs, Fabrice, au PSG on gagne plus qu'en première ligue.
Un peu de beurre dans les épinards.
Je pense qu'il aurait pu gagner beaucoup plus ailleurs, mais en revanche il est pas malheureux et il a un cadre de vie que Paris, il n'y a qu'une ville qui s'appelle Paris dans le monde,
hein. C'est Birmingham, Paris, je préfère Paris moi aussi, hein.
Ouais. Aston Villa, ils sont exactement. Vraiment. Et là, ils peuvent rien y faire. C'est une clause, comme l'a dit très bien Fabrice. Ils perdent Tielemans sur une clause aussi. Donc, en 24 heures, tu viens de perdre.
Qui va à Manchester United.
Ton meilleur joueur, qui va à Manchester United, tout à fait. Ton meilleur joueur de la saison dernière, c'était Tielemans pour eux. Ton régulateur, ton patron, tout ce que tu veux. Et tu perds ton arrière gauche, qui est redevenu titulaire, qui était bon, à des prix qui sont pas vraiment les prix du marché non plus, hein. Ni pour Tielemans à 35 millions d'euros.
Ah oui, surtout pas.
Tielemans. Pour Digne à 8-10, on va dire.
Manquerait pas qu'ils perdent Rodgers et Martinez. Et puis
Rodgers, il va partir aussi.
Et Martinez,
il va falloir tout reconstruire.
C'est énorme.
Bon, voilà pour cette info Mercato. Merci Fabrice, en tout cas, pour ce direct depuis l'entraînement, en l'occurrence. Ciao.
Ouais, je vois conférence de presse, là, Deschamps et Warren Zaïre-Emery dans une demi-heure.
Bon, d'ailleurs, Warren Zaïre-Emery, qu'on n'a pas évoqué dans une possibilité au milieu de terrain aussi tout à l'heure. On a un peu oublié.
C'est-à-dire titulaire?
Bah non, mais je sais pas, quand on leur disait Tchouaméni.
Il a fait une bonne entrée, mais.
Ah bon, c'est sa première entrée. On a peut-être fait un bravo au chapitre avec. Bah oui, rotation sur. Rotation pour l'entraînement.
Et tu sais, dans le débat Doué-Barcola aussi.
Oui.
Par rapport à l'adversaire et à Porro arrière droit, même s'il monte moins que ce qu'on a vu pour l'instant, tu fais plus confiance à Doué ou Barcola pour ton ailier qui va suivre le latéral le plus? Après avoir vu Doué contre Hakimi, même si encore une fois c'était un Maroc décevant et Hakimi a pas vraiment joué son jeu parce que le plan de jeu était différent de ce qu'ils ont fait habituellement, moi je pense que j'ai plus confiance en Doué pour bien défendre sur
les
Porro,
phases défensives tous les jours, bien sûr.
Qu'un Barcola, même bien si sûr. Après les qualités de Barcola en contre notamment pour prendre les espaces, etc. Mais moi je pense que Doué sera titulaire, que Barcola entrera en jeu à l'heure de jeu ou à la 65e
et qu'il
fait plus confiance à Doué en phase défensive qu'à Barcola.
Ouais, mais par contre tu sais que si l'Espagne joue son jeu comme ils prétendent vouloir le faire, ils vont jouer vers l'avant et tu auras plus d'espace derrière, et un Barcola est meilleur qu'un Doué pour prendre l'espace.
Bon, les gars, l'Argentine semble physiquement un peu sur la jante. Les Anglais, ils ont été loin d'être convaincants contre les Suisses.
C'est vrai.
Les Espagnols, c'est pas non plus une attaque flamboyante, je n'entends pas de neuf. Vous allez me dire, ils ont été champions du monde comme ça, mais enfin bon. Au final, on a quand même l'impression que notre équipe de France, aujourd'hui, c'est la grande favorite des quatre.
Et de loin.
Est-ce que avant la demi-finale, on peut se dire clairement, dans l'after, écoutez, là, si on la gagne pas, cette Coupe du Monde, ce sera un échec?
On a déjà eu cette discussion sur un autre que j'ai fait dernièrement. Mais c'est le mot échec. Je trouve que le mot échec, il est fort. Parce que tu peux perdre un match, une finale de Coupe du Monde, en tapant trois fois sur le poteau et l'autre marque une fois. J'irais plutôt une déception. Une vraie déception parce qu'on aime ce groupe. Je trouve que tout le monde s'accorde à dire que ce groupe vit bien, joue bien, a une belle attitude. On l'a vu contre le Paraguay. Tout est beau, tout est bien dans un monde parfait. Et que si la France est à 100%, elle devrait gagner cette Coupe du Monde parce que c'est la meilleure équipe. Voilà. Maintenant, t'as la grande image. Après le football, on sait que c'est des détails. Et si ça veut pas rentrer parce que ça tape sur le poteau, parce que t'as pas de chance, bah, tu, il faudra pas être méchant avec cette équipe de France. Tu pourras pas être méchant.
Non, pas être méchant, mais c'est quand même un échec, Franck. On serait déçu si l'équipe de France ne venait pas.
Je vais le dire. Ce serait une déception. Un échec, c'est une critique. Pour moi, le mot échec,
mais quand tu regardes les forces en présence,
prendre les bonnes définitions des mots, un échec est une critique.
Ouais, mais quand tu regardes les forces en présence, quand t'as Mbappé, quand t'as le ballon d'or en titre, quand t'as Michael Olise qui a roulé sur la Bundesliga, si tu gagnes pas cette Coupe du Monde, c'est un petit peu ce qui s'est passé en 2002.
Tu as été bien placé pour savoir. Et il y a très peu de temps, tu joues encore. Tu sais très bien, comme moi, que tu peux faire le meilleur match de ta vie.
Ça peut arriver.
Ça veut pas rentrer. Ça veut pas rentrer. Et à ce moment-là, tu tires des conclusions qui sont pas forcément les bonnes.
Je suis d'accord avec toi, mais si tu compares avec ce qui s'est passé en 2002, où est-ce que justement tu avais ces offensives, tu avais Trezeguet, tu avais Cissé, me semble-t-il, et tu avais les trois meilleurs buteurs des trois championnats. Quand tu perds, en tout cas, quand tu vas pas au bout, c'est un échec. C'est un échec.
Mais trois fois sur le poteau,
ça reste un échec. C'est pas une déception en 2002.
Tu perds pas en demi-finale en 2002.
Non, mais c'est une question. C'est un échec ou c'est une déception? Mais c'est la même chose.
Bien sûr, tu retiens
que les gagnants. Mais j'entends ce que tu veux dire. Mais là, c'est l'ancien champion. Enfin, c'est l'ancien champion du monde. On dit l'ancien champion du monde, champion du monde.
Vous
remarquerez qu'à RMC on a été cool parce que les deux gars qui sont sur le but de Bouba Diop, c'est Franck Leboeuf et Manu Petit, on a pris les deux.
Ah, on leur a donné du travail. Après, beaucoup.
Mais nous on assume, c'est ça le truc. On assume nos échecs. C'était un échec parce que bon, on tape trois fois sur le bouton, mais c'est le premier match, on passe par les groupes, on a été champion du monde, champion d'Europe, champion de la Confédération. Bien sûr qu'on doit faire mieux, mais là c'est incomparable. Cette équipe joue magnifiquement. Elle a encore une fois un esprit super, il y a tout qui est bon.
Pour moi, c'est une grosse occasion.
Tu dis quoi, Julien ?
Pour moi, c'est une grosse occasion que tu raterais si
pas un échec. Donc, on est satisfait.
Non, j'ai pas dit c'est satisfait. Donc.
Qu'est-ce que tu es méchant, toi?
Non, mais j'essaie de comprendre, en fait. T'as les meilleurs joueurs du monde un peu partout sur le terrain. Non, mais c'est parce que je suis dur avec cette équipe de France. Oui, un petit peu, c'est vrai. Je l'ai encore, le match perdu 3-1, je l'ai encore à travers la gorge.
Ah, bah ouais, et encore, ils ont été.
Le 0-0,
c'est pas le 0-0. 0-0, j'étais pas, c'est pour ça.
Ah, c'est pour ça qu'il y a un peu.
Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent maintenant. J'ai été Manuel Petit, Franck Leboeuf.
Non, mais sérieusement, quand tu regardes un petit peu les forces en présence, t'as les deux meilleurs défenseurs centraux, t'as un quatuor exceptionnel, enfin, t'as une équipe qui, normalement, tu dois rouler sur tout le monde, et d'ailleurs, tu l'as vu, quand tu regardes l'Argentine, c'est poussif, l'Angleterre, c'est poussif, l'Espagne, c'est poussif, hein, il faut aussi, remettre l'église au centre du village. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe de France, la manière dont elle domine cette compétition, ses adversaires, excuse-moi, si l'équipe de France ne gagne pas cette troisième étoile, pour moi, ça sera un échec. Je ne blâmerai ni Deschamps, ni les joueurs, mais ça reste malgré tout un échec, parce que quand tu vois un petit peu le contenu et ce qu'ils nous montrent depuis le début de cette compétition, honnêtement, ils doivent y aller tout droit, les Français. Ils doivent même si tu ne maîtrises évidemment pas tous les facteurs, c'est vrai que dans le foot.
Mais non, moi, il y avait une question, pardon, Gilbert, j'en ai parlé à ESPN l'autre fois où je travaillais et je disais, peut-être qu'on a la. Ça sera un autre débat, mais peut-être qu'on a la meilleure équipe de France qu'on ait jamais vue. Alors il y a un vrai débat, hein, parce qu'il y a eu 58, il y a eu 82-86, il y a eu bien sûr 98, et là il y a cette équipe. 2018, je pense que c'est pas la meilleure équipe, et le débat il est même pas là. Mais là, il y a un vrai débat.
Moi, je pense que le match, il est entre cette équipe, si elle gagne.
Il faut qu'elle gagne.
Si elle gagne, et le cycle 82-86.
Évidemment, c'est
ça. Parce que là, c'était hyper offensif.
Il y avait un manque d'expérience.
Et peut-être que l'Euro 2000.
Voilà, j'allais faire nuance, moi. Pas forcément 98, c'est l'Euro 2000 quand tu rajoutes Anelka, quand t'as Trezeguet et Henry qui sont arrivés quand même en maturité.
Oui, mais l'Euro, on dit souvent que c'est plus difficile. En tout cas, l'Euro d'avant était plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde aussi.
Bien sûr, je suis assez d'accord.
Dans un instant, Franck, merci de rester avec nous 10 minutes encore pour parler des pénaltys parce que c'est ton domaine.
Parce qu'il faut en parler, même Messi n'est pas capable de tirer.
Une fois qu'on a un mec qui s'est marqué des pénaltys, profitons-en. Donc c'est tout de suite. Les tireurs de pénaltys sont-ils devenus mauvais? Seulement 65% de réussite à la Coupe du Monde. On en parle dans quelques instants avant de débattre de Bellingham. Jude Bellingham va-t-il devenir le meilleur joueur de l'histoire en Angleterre? C'est ce que dit Lineker. Tout à l'heure, débat avec Julien, bien sûr. On se retrouve tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit. En direct de New York.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Bribois.
After review.
Yeah, I did. I spoke to Johnny.
Number 9 of all Norway.
I asked for a review because I didn't think it was a foul.
Push deliberately the defender before the ball was in play.
I was not a guy punching somebody in the face.
Final decision.
How would you feel if I took Ronaldo or we took Messi out?
Corner retaken.
23h02 en France. Il est 17h02 ici à New York, dans le studio de l'After. Nous sommes sur la 55e rue, à côté de Times Square, au Café Luce, qui nous reçoit
51.
Magnifiquement bien.
51 ?
51. Ah oui, non, 55, c'est notre hôtel.
Voilà, c'est ça. Tu veux donner le numéro de ta chambre ou
pas ? Non, mais 51e. Par contre, j'ai peut-être donné celle de Julien Cazard, parce que vous ne savez pas que Julien Cazard est à New York.
Ouais. Ah ouais.
Et dans une heure, il sera là, les nuits du Cazard enchaîné, en direct. C'est les après-midi du Cazard enchaîné, du coup, parce que en décalage.
Ça fait tôt pour lui, ouais.
Ça fait tôt pour lui. Alors, Julien, depuis qu'il est arrivé, il fait que râler. Il est pas content, il n'aime pas New York, il n'y a rien qui va.
Ah, le Parisien,
il est arrivé. Le vrai Parisien.
Voilà, c'est ça,
ouais. Insupportable.
Ouais, c'est ce qu'il est arrivé qu'hier, hein.
Insupportable.
Au bout d'un jour, déjà, il sature de New York.
Exact. Bon, il sera là tout à l'heure quand même. Donc, à partir de minuit, Julien Cazard et Jean-Christophe Drouet, évidemment. Alors, les pénaux. Ouais. Franck, toi, t'as un taux de réussite. T'as eu un taux de réussite dans ta carrière extraordinaire.
Ouais.
À plus de 90% de réussite de pénaux.
Ouais, même un peu plus que ça. Même
95.
Ouais. 95. Ouais.
La technique Franck Leboeuf, elle est très simple.
Ferme les yeux, tire fort.
Sous la barre.
Élan dans l'axe.
Non, un peu sur le côté, mais un peu.
Quasi dans l'axe.
Quasi dans l'axe.
Quasi dans l'axe.
Surtout vite, rapide dans les.
Rapide. Élan et grosse patate,
ouais,
sous la barre.
Ça coche, quoi.
Non, soit par terre. À terre, c'est plus simple. Mais ça peut être d'un côté ou de l'autre.
Mais puissant.
Mais puissant. Et en fait, j'en avais discuté avec Johan Iskens quand je jouais à Chelsea. Il était venu parce qu'il y avait Ruud Gullit qui était mon entraîneur. Et il m'a dit, mais je faisais comme toi. Mais moi, le pire, c'est qu'en plus, je fermais les yeux. Parce que je voulais pas voir ce qui se passait. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que des joueurs autant talentueux et autant faciles techniquement que Lionel Messi, que Kylian Mbappé, mais il y en a d'autres aussi qui ont loupé des pénaltys, soient incapables d'un moment donné de faire preuve de, on va dire, de simplicité, on va
pas parler
de pragmatisme, exactement, où tu sais exactement quand tu dois faire une passe de, on appelle ça de 12 yards en anglais, 9,50 m en français, c'est super facile. Pour un joueur de foot, c'est super facile. Sauf qu'ils se compliquent la vie. Ils ont décidé, au lieu de penser qu'à eux, alors qu'ils savent le faire, certains qui savent très bien le faire, penser qu'à eux, ils jouent avec le gardien. Donc déjà, pour moi, c'est dans le monde du football, c'est un monde de respect pour le gardien. Et ils vont attendre le mouvement du gardien.
Dans la course, tu veux dire, oui, ça, dans la course.
Dans la course, dans leur course, ils vont attendre jusqu'au dernier moment pour voir où le gardien va aller pour changer. Alors, il y en a un qui le fait très bien, c'est Neymar. Et j'ai été plutôt dur avec lui pendant toute sa carrière. Mais alors, par contre, au penalty, le mec, c'est phénoménal. Ce qu'il est capable d'ouvrir son pied au dernier moment, c'est fantastique. Mais vous jouez un risque extraordinaire. Alors que tu choisis un côté. Alors, le pire, le plus dur, c'est de pas changer d'avis quand à ce coup, tu vois le gardien bouger. C'est de bien garder en tête ce que tu veux faire. À ras terre ou alors sous la barre, comme tu disais, Gilbert. Et très fort. C'est impossible. À peu près 50 cm du poteau, à ras terre, c'est pratiquement impossible pour un gardien de l'arrêter. Et on l'a vu.
Alors attention, toi à ton époque, t'avais pas non plus des gardiens de 2 mètres,
j'allais dire.
Qui avaient une envergure extraordinaire.
Les stats et toutes les données pour chaque tireur.
D'accord, mais moi, je savais pas où j'allais tirer avant de tirer. Donc tu peux avoir des stats, vas-y, mon pote.
Donc avant de tirer, tu sais pas où tu vas tirer.
Non,
c'est à partir de quel moment tu prends ta décision ? C'est pendant la course ?
Au moment où je vais tirer.
Tu poses le ballon.
Je vais tirer, je pose le ballon, j'y bon, allez. Donc voilà, c'est Bernard Lama contre le PSG. Je sais qu'il a mal au genou droit. Je vais tirer à droite.
Il faut connaître tous les gardiens.
À peu près, mais c'était à peu près ça. Mais je chambre un peu Bernard. Mais c'était au feeling, vraiment au feeling. D'accord. Mais
tu changeais ta surface de pied. C'était toujours intérieur.
Non, c'était
ou
coup de pied. C'était coup de pied pour côté droit du gardien.
D'accord.
Et c'était plat du pied pour côté gauche du gardien. Pour être un peu plus précis, parce que la facilité, c'est toujours tirer pour un droitier côté droit du gardien. Mais il y a eu des moments où j'ai senti qu'il fallait que je change, et ça c'est très dur parce que on parle de ce dont on parle maintenant, c'est que j'ai changé d'avis pendant une course parce que il y avait une musique. Mais nous, à l'inverse de maintenant, les gardiens ils avançaient, ils restaient pas sur la ligne, donc ils bouchaient l'angle un peu plus. Parce que là, le gardien sur la ligne, je peux te dire que moi, mais j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais manqué déjà le but.
Le cadre.
Jamais de pénal à côté.
Jamais, ça m'est jamais arrivé. Alors j'ai vu Michel Platini le faire avant moi, manquer le cadre. Je me dis, alors si Michel Platini est capable de manquer le cadre, tout le monde peut manquer le cadre. Et on l'a vu Messi l'autre fois aussi le manquer. Donc c'est tout à fait possible. Mais ils se mettent une pression tellement monumentale que moi je suis prêt à faire ça gratuitement pour n'importe quel club pour dire mais on va essayer autrement. Je sais pas.
Entraîneur des pénalties.
Non mais t'as l'entraîneur des coups de pied, Arsenal qui a été qui grâce à lui, Arsenal est champion d'Angleterre. Je suis désolé, c'est grâce à lui. Mais moi, je suis prêt à venir pour voir ce qui est possible de faire sur les pénalties. Parce que 65% de pénalties ratées dans une Coupe du Monde.
J'ai le numéro de Marc Keller. On va faire un petit stage.
Ouais, mais Marco, il n'y a pas de problème s'il veut.
La stat, je la rappelle ici à la Coupe du Monde. Alors, ça prend en considération les pénalties dans le jeu, mais aussi les tirs au but.
Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais.
Oui. Après, ça reste le même exercice. Voilà, c'est. Je veux dire,
65% de réussite. C'est
de réussite,
un peu plus de 1 sur 2.
Ouais, mais c'est
un peu possible. Plus de 1 sur 2, c'est incroyable.
C'est pas possible parce qu'en fait, et encore une fois, on en revient.
Et t'es censé avoir les meilleurs joueurs du monde quand même.
C'est ça que le talent.
Mais t'as aussi les meilleurs gardiens, donc l'un dans l'autre. Mais t'as un rapport psychologique aujourd'hui qui fait que le tireur était en position de force. J'ai le sentiment que c'est l'inverse maintenant.
Oui, parce que c'est eux qui se mettent dans cette position-là. Ils se mettent en tant qu'attentistes d'un mouvement du gardien. Et moi, je suis désolé, on a beau me prouver ce qu'on veut. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que faire une passe ou une frappe à 12 mètres. À 9,50 m à 12 yards, c'est facile.
Donc pour toi, la clé, c'est la simplicité.
Complètement.
Et c'est là que moi, je pense, quand tu regardes un petit peu, c'est ce qui tue un petit peu les tireurs de pénalty, c'est les vidéos YouTube, c'est ces choses-là. C'est finalement ce que vous aviez peut-être
tous,
pas à l'époque.
Ils veulent faire du Neymar.
Ils veulent passer sur les réseaux sociaux. Ça a commencé avec Jorginho qui sautait et en fait, ça a été la suite logique.
Julien.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Gilbert. Moi, je pense que Neymar, il a tué le game en fait.
Ouais, mais tu peux pas. Le mec était vraiment. C'était le master. On l'a encore vu là. Dernière fois, il a avec le Brésil, son dernier but en Coupe du Monde, où le mec, il sait exactement ce qu'il fait et il est tellement fort, il est tellement flexible de la cheville que ça pose pas de problème. Il est capable de faire. Mais les autres, arrêtez, vous n'êtes pas capable de le faire. Même Messi, son dernier penalty à hauteur de gant de gardien, ce que j'appelle à hauteur de gant de gardien, c'est-à-dire quand le gardien plonge, le ballon, il est à 50 cm, 75 cm du sol. Mais c'est un tir de pénalty de débutant.
Mais c'est vrai que c'est surprenant.
Et on parle de Messi, le mec qui sait tout faire.
Après, Franck, tu peux quand même confirmer que c'est pas facile de tirer les pénaltys. T'as la pression, parce que ça a l'air très simple. Hein. Comment il peut louper un pénalty ? Non, t'as une réalité, t'as un contexte.
Moi, je pense aussi que les gardiens sont beaucoup mieux préparés.
Oui, bien sûr.
Sincèrement. Au-delà de la data et des données, je pense qu'il y a un travail psychologique des gardiens.
Prenons quelques cas particuliers. Mo Salah. Il est quand même un joueur extraordinaire. Sur les pénalties, c'est une catastrophe.
Ouais.
Avec les
gilets. Ces derniers temps, là.
C'est pas possible.
Et, là, et après, t'as encore des décisions qui sont dingues. Les Allemands, là, dans cette Coupe du Monde, ils envoient en tireur décisif Jonathan Tah, qui n'a jamais tiré de sa vie.
Ouais.
Mais ça, c'est un autre problème.
C'est un problème d'organisation. Parce que
Goretzka a refusé aussi.
Moi, je comprends pas qu'aujourd'hui, en Coupe du Monde, dans un match pareil, à élimination directe, que tu n'aies pas un plan déjà établi avant la rencontre en disant écoutez, si ça va au tir au but, c'est 1, 2, 3, 4, 5.
Mais parce que tu as des joueurs qui sont sortis entre temps, c'est pour ça.
Quand même, c'est quand même sur ceux qui seront encore là, ce sera ça l'ordre. Ça, s'il y a des remplaçants, ou au moins que tu arrives à la séance, au début de la séance, puisque tu as eu 5 minutes avec tes joueurs avant.
Bien sûr.
Et que là, tu as établi.
Non, mais de mon ordre.
Non, parce qu'en règle générale, les 5 premiers, ils sont déjà choisis
après
le 6, 7, 8ème, je peux te dire que c'est rarement les meilleurs tireurs. Et quand tu es 6ème ou 7ème, tu as qu'une envie, c'est que
Marcel et Dédé, ils ne voulaient pas tirer. Ils voulaient être les 10e
et 11e.
Et d'ailleurs, on va en parler.
Le France-Italie de 98, il y en a beaucoup qui sont
planqués. Est-ce que c'est Thierry Henry et Trezeguet qui y vont ?
Bien sûr, exactement.
Ils ont 20 ans, les gamins.
Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas l'entraîneur qui décide. Avant les matchs, il dit premier tireur. Et si jamais tu sors ou t'es blessé, deuxième tireur. Donc il y avait en équipe de France, souvent il y avait Zizou, il y avait Yuri, il y avait Lolo. Enfin voilà. Moi j'ai tiré des pénalties parce que ces joueurs-là ou ne jouaient pas ou étaient blessés. Voilà. Mais sinon c'est défini, mais par les joueurs, pas par l'entraîneur.
Là, tu parles de séance de tir au but.
Non, je parle de tirer dans le match.
Après
la séance de tir au but, c'est l'entraîneur qui vient voir. Tu veux tirer ou tu veux pas tirer. Et qui tire en premier ?
Le meilleur tireur normalement.
En principe, le meilleur tireur et pas la star. La star qui attend la quatrième pour faire la star, tu vois.
Prends l'exemple du Brésil par exemple. Parce que le pénalty de Bruno Guimarães, s'il rentre contre la Norvège, peut-être que le reste est différent et ils sont encore à la Coupe du Monde.
Mais pourquoi il tire ?
Parce que
Carlo
Ancelotti, il a dit, on a regardé les stats et on a vu que le meilleur c'était Rafinha, que le deuxième meilleur c'était Neymar,
le meilleur c'était Neymar,
il n'était pas sur le terrain.
Ouais.
Après c'était Bruno Guimarães, avant Vinicius. Donc on a vu.
C'est ridicule, il en avait tiré trois. Donc ouais. Évidemment, s'il en a mis 3 sur 3, il est
à.
Mais en fait,
tu as naturel, tu es à 100%.
Oui, c'est ça. Gilbert, il est à 100%. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a des entraîneurs, il y a des façons différentes de désigner tes tireurs.
Dédé, il était à 0% et il n'a jamais tiré, il était à 100%.
Voilà. Il n'était pas choisi dans les 5.
Non, mais ça doit venir du joueur parce que c'est une question de confiance, bien sûr. Il y a des choses que tu sens et tu as envie d'y aller parce que, quelquefois, tu as un ego peut-être surdimensionné et tu as envie de te prouver quelque chose.
On va conclure là-dessus. Demain, il est tout à fait possible qu'on ait une chance de tir au but. France-Espagne.
5 sur 5 pour les Bleus, hein, séance de tir au but.
Séance de tir au but.
Dernière, depuis qu'il est commencé à y travailler, puisque Deschamps nous disait encore
ça. À la demande des joueurs. Hein.
Bien sûr.
Moi, ça m'a rendu.
2022,
quand j'ai lu ça, ça m'a rendu fou.
Et moi aussi, complètement.
On a travaillé les coups de pied arrêtés, virgule, à la demande des joueurs.
Moi, je tire.
Mais toi, t'es coach, mais qu'est-ce que tu fous?
Après chaque entraînement dans mes clubs, ou après chaque entraînement en équipe de France, je me faisais 2 pénalties. Parce qu'après, à partir du 3ème, tu dis, j'ai déjà tiré à gauche, j'ai déjà tiré à droite, tout ça. Donc tu prenais le gardien, tu prenais le premier gardien, tu tirais un penalty, tu l'envoyais à la douche, tu prenais le deuxième gardien, t'en tirais un et là tu rentres à la maison. Parce que c'est comme ça que tu crées ta confiance et c'est comme ça que tu crées le talent, enfin le style, le skill.
Mais
la routine
aussi.
La routine.
Demain, premier tireur Mbappé. Merci s'il vous plaît.
Logique.
Et qu'il ne veuille pas tireur quatrième.
Non, premier tireur Mbappé, tu fais jouer ton mec le plus fort.
Bien sûr,
le meilleur pour lancer la série, etc. Deuxième tireur, Olise.
Ouais.
Voilà. Moi, je te le fais dans l'ordre décroissant de la troisième tireur, Dembélé.
Et Doué aussi. Hein. Voilà. Le penalty à Liverpool en Ligue des Champions, c'est lui qui met le penalty vainqueur.
Quatrième tireur, Doué, s'il est là.
Mais Rabiot, Koné peuvent tirer. Hein.
Barcola, je ne sais pas si j'ai envie de le faire tirer.
Moi non plus.
Barcola, je ne sais pas si j'ai envie.
Ouais.
Tchouaméni, il en a déjà raté un. Rappelez-vous.
Mateta les prend. Si Mateta est sur le terrain, par exemple, si on a eu besoin de lui.
Rabiot, on y va.
Je fais confiance.
Rabiot, on y va.
Si un des centres revient, on aura peur. Un peu comme Chano, le bœuf moins, mais
sache que j'ai un taux de pourcentage très élevé, comme Franck. Je me prenais pas la tête. Voilà, moi, je fermais les yeux et j'envoyais une sacoche au milieu.
Mais en l'air, un petit peu en l'air.
Si j'arrivais à la lever, c'est différent.
Moi, j'ai manqué mon penalty dans le match de l'after. Donc, Charbonnier, Charbot l'a arrêté.
Charbot avec son tendon d'Achille cassé.
Sur une jambe.
Tu sais qu'on a eu une histoire ce jour-là. Parce qu'on fait une. Le premier match de l'after, Franck était là, il avait été excellent d'ailleurs. Et deuxième match de l'after, Charbot dans les buts. Et en fait, on a Simone Rovera, notre spécialiste de l'époque de l'Italie, qui va faire une panenka à Charbot.
Mais non.
Soir complètement sa panenka qui devient une espèce de bouse horrible.
Catastrophique.
Et en fait, Charbot, plutôt que chambrer en disant, il dit, tu manques de respect, toi.
C'est vrai que ça. Moi, j'en parle souvent avec. Je travaille avec Shaka Hislop, qui était l'ancien gardien de Newcastle et de West Ham, super gardien de Trinidad et Tobago, qui a fait la Coupe du Monde 2006. Qui était un mec extraordinaire. Et je lui dis, est-ce que tu trouves pas que il y a ce manque de respect des gardiens de but? Il y a un vrai manque de respect des gardiens.
Ouais, après, c'est le jeu, Franck.
On est là pour marquer, on n'est pas là pour teaser.
C'est un match psychologique aussi.
Il y a ça, c'est pour ça que je pense que le rapport de force a évolué et que le gardien aujourd'hui a pris un avantage, en tout cas sur l'attaquant. Je persiste et signe qu'aujourd'hui, si les joueurs se permettent, en tout cas, de faire ce genre de course, c'est parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a les pastilles et que les mecs veulent passer justement et un petit peu briller parce que c'est aussi la manière de faire parler d'eux. Mais voilà, la vérité, elle est là. On a Franck Leboeuf. Il faut tirer simple. Il faut pas se prendre la tête, grosse sacoche sous la transversale.
Je vous dis les mecs que je veux pas avoir tiré si la séance de tir au but, je ne veux pas avoir tiré Koundé.
Non plus.
Ouais. Merci. Je veux pas avoir tiré Barcola. Merci.
Saliba non plus.
Saliba ou pas Mécano?
Saliba.
Ou pas Mécano, oui, Saliba. Mécano, non.
Oui, Saliba, je sais pas.
Ouais.
Théo Hernandez, tout ça, non.
Digne,
tu peux faire Digne,
on y va.
Brice Samba et Rob Harisser non plus.
Et Mac Maignan.
Franck, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, les gars, c'était un vrai plaisir, comme d'habitude.
Tu reviens nous voir jeudi, je crois.
Exactement.
Très bien.
Exactement.
Écoute, j'espère que ce sera pour célébrer pour parler de l'affiche de la finale.
Ouais. Voilà, il est bon penalty tiré par Kylian et le reste.
Exactement.
Et pas de mon bronzage.
Dans un instant, on va parler de l'Angleterre. Lineker fait de Jude Bellingham peut-être le meilleur joueur anglais de l'histoire. Il va devenir le meilleur joueur anglais de l'histoire. Débat avec Julien Laurence dans quelques instants, qui va également nous raconter ce qui se passe en coulisses entre Bellingham et Tourelle. Parce que il y a eu quelques déclats qu'il faut décrypter, bien sûr. On se retrouve tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit et ensuite les nuits du Casar Rochelle ici en direct de New York.
RMC, l'after foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois.
Il est 23h18 en France, il est 17h18 ici à New York, dans le studio de l'After, en direct de Manhattan, au Café Luce, où on vous attend si vous êtes dans le coin, si vous voulez passer nous voir. Maxime Chano est là, Julien Laurence est là. Demain, la demi-finale France-Espagne, bien sûr, après-demain, Angleterre-Argentine, ce sera là aussi sur RMC. L'Angleterre, justement, on va en parler, parce que Bellingham fait débat en Angleterre depuis longtemps. Hein. Il y avait eu le débat sur faut-il l'emmener ou pas, ouais. Je pense que là, celui-là, il n'existe plus trop maintenant, vu la Coupe du Monde qui fait.
C'est sûr.
Il y a eu l'échange par médias interposés entre Tourelle et Bellingham après le match face à la Suisse, où Tourelle dit je suis pas content de, bon on est qualifié, c'est très bien, bravo, mais moi je suis pas content du match et tout, et je pense que bon, on est à peu près d'accord pour dire qu'il a raison. Et Bellingham derrière qui arrive, il dit non, non, mais moi ce que je retiens c'est qu'on est qualifié, en gros les nous, bravo aux joueurs, sous-entendu lui
et il dit
lui il sert à rien quoi.
De toute façon, on peut pas savoir ce que c'est d'être sur un terrain, de jouer contre Haaland, Odegaard et tout.
Voilà.
En gros référence, t'étais une pipe quand t'étais joueur de foot et ensuite laisse-nous tranquille. Et il dit le fameux mot whatever trois fois, donc en gros je m'en fous de ce qu'il peut dire.
Ouais. Bon, et évidemment les Anglais ils laissent pas passer.
Ah, on parle que de ça. Que de ça au pays, c'est sûr. Alors on entend, demain on aura Thomas Tuchel en conférence de presse forcément. Ouais. Donc on saura un peu plus. Il a essayé de, les infos que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il a un peu essayé de déminer tout ça, que ça prenne pas trop de proportions. Ils en ont parlé, ils en ont discuté, et que là il reste 4 jours de toute façon, une demi-finale potentielle, une finale possible, un titre pour la première fois depuis 60 ans, ce qui serait quand même incroyable, extraordinaire. Ils sont là pour ça, tous les deux, hein, qui s'aiment ou qui s'aiment pas. De toute façon, on est là pour
même
la
même bateau.
Donc c'est ce qu'on disait un petit peu déjà hier dans la discussion, et donc ils vont. Ils se sont serrés la main, ils ont fait la paix entre guillemets là pour maintenant, à court terme. Sur le long terme, on verra. Mais là, à court terme, en tout cas, oui.
C'est quoi l'histoire? C'est que Bellingham, c'est un mec qui a un sale caractère ou c'est.
Ça, on savait.
Je pense surtout qu'il veut lui faire payer ce qui s'est passé.
Mais oui, Max a mis. C'était un très bon point que Max a fait hier déjà, ouais.
Bah, surtout par rapport à ce qui s'est passé avec Bellingham. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de vengeance, de vendetta de la part de Bellingham. Il faut remettre dans le contexte qu'il était quand même chahuté. On en a parlé justement dans la presse anglaise, comme quoi il n'était pas forcément le bienvenu avec cette équipe nationale. Et Tourelle l'a quand même pas aidé. Il l'a pas aidé, il l'a pas sélectionné. Il a préféré quand même à Morgan Rogers, qui n'avait pas forcément le statut de Bellingham. Donc Bellingham, il a eu l'intelligence, en tout cas, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Jules, mais de rentrer dans le moule, de finalement de donner à Tourelle ce qu'il avait besoin. C'est-à-dire des efforts défensifs, parce que c'est sur ça qu'il était critiqué. Et là aujourd'hui, où est-ce qu'il a repris le lead? Parce qu'aujourd'hui, si l'Angleterre est qualifiée en demi-finale, c'est évidemment Harry Kane, mais c'est surtout Bellingham.
C'est le patron.
Et aujourd'hui, voilà, ils peuvent se permettre de pouvoir critiquer Tourelle. Tu vois bien qu'il y a de la friture sur la ligne. Là, c'est clair et net. On parle vraiment d'une entente sélectionneur joueur qui est pour moi détestable. Ça se sent. Maintenant, je pense que moi, Tourelle, il est dans son rôle. Tu sais, en règle générale, il y a deux sortes d'entraîneurs. T'as les entraîneurs qui vont féliciter les joueurs, et puis t'as ceux qui, justement, quand on a fait un bon match, ou en tout cas quand ils viennent de se qualifier, eh ben, la manière de parler de Tourelle, c'est, j'ai le sentiment de laisser les joueurs concernés, tu sais.
Moi,
j'ai connu des entraîneurs qui étaient bien plus durs après une victoire plutôt que l'inverse. Ouais. Et donc, pour moi, c'est aussi la raison pour laquelle je pense que Tourelle s'est positionné de cette manière. Est-ce que c'est une erreur? Oui. Est-ce que c'était une erreur encore plus en Angleterre? Un double oui, parce que tu connais un petit peu les médias anglais. Mais voilà, pour revenir par rapport à Bellingham, je trouve qu'il est dans son rôle. Aujourd'hui, il peut se permettre de parler. Il a pris les commandes de cette équipe nationale. Ce qu'on lui reprochait aujourd'hui, on peut plus lui reprocher. Et voilà, après, comment ça va se terminer? S'il est l'Angleterre gagne la Coupe du Monde, je pense qu'on oubliera cette histoire. Par contre, s'ils sont éliminés, je pense que ça va laisser des séquelles, et notamment pour le sélectionneur.
Ce qui est intéressant de savoir aussi, Gilbert, c'est que lui, en fait, considère qu'il devrait être capitaine, Bellingham. Il considère que le patron, c'est lui, sur le terrain, en dehors, qu'il a la personnalité pour. Donc, en gros, Ken ne l'a pas, lui, il n'a pas mon charisme, il n'a pas mon aura, en gros, c'est un peu ça. Donc pour lui, ce rôle-là de patron qu'il a effectivement maintenant, c'est leur meilleur joueur, même si Kane a marqué 6 buts, c'est Bellingham qui...
Il a marqué les buts plus importants, Bellingham.
C'est sûr.
Notamment
hormis
contre
les deux contre le Congo. Pour, ouais. Mais quand même, t'as raison, le Mexique, là, l'enchaînement 8e de finale, quart de finale, il est incroyable.
Ouais, ouais.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est exactement ce qu'il attendait. Et effectivement, c'est quelqu'un qui est rancunier. Ça, c'est sûr. On l'avait déjà dit hier. Walid l'a répété tout à l'heure aussi déjà. Et on est tout à fait d'accord là-dessus. Et je pense que dans ce genre de bras de fer un petit peu entre les deux, qui n'est pas vraiment un bras de fer physique, mais qui reste un bras de fer psychologique, comme beaucoup, comme tu l'as répété aussi hier, qui existe souvent dans des vestiaires. Hein. Dans
les vestiaires, c'est très fréquent.
Bien sûr, moi, j'ai eu des entraîneurs,
j'ai pas parlé pendant 6 mois.
Ah oui, ça m'étonne
pas. J'en ai pas parlé, ça ne m'empêchait pas de jouer, ça l'empêchait pas l'entraîneur de me mettre titulaire, enfin peu importe, mais après, on se parlait par l'extérieur. Voilà. Tu sens bien qu'il y a deux égos, Bellingham, Tourelle. Aujourd'hui, c'est qui prend le lead de cette équipe. Ça a été évidemment Tourelle parce que c'est le sélectionneur, ça reste le patron de cette équipe. Mais tu sais très bien que dans le football, le joueur, le meilleur joueur, ben forcément, il y a aussi une hiérarchie. Et là, Bellingham, petit à petit, il est en train de ramener l'équipe autour du lit. Attention, moi, pour moi, la grosse erreur, c'est de la part du sélectionneur anglais, parce que je le répète, si l'Angleterre gagne, je pense qu'on va mettre ça sous le tapis. Par contre, si jamais ça perd, ça risque d'être compliqué pour le sélectionneur anglais.
Lineker. Lineker arrive. Alors, Lineker, très écouté en Angleterre, bien sûr. C'est une voix reconnue et tout. Et Lineker dit écoutez, je pense que Bellingham va devenir. Alors, je pense qu'il parle au-delà de la Coupe du Monde, il parle aussi de l'avenir et tout. Ouais. Va devenir le plus grand joueur anglais de l'histoire. Alors, ça aussi, j'imagine que ça fait débat en Angleterre. On peut nous faire un mini débat ensemble. Je rappelle qu'il a 23 ans. Je rappelle aussi qu'il n'a pas joué dans un grand club anglais.
C'est vrai, il est parti très jeune à Dortmund.
Ça peut compter, parce que finalement, il a fait une carrière. Je veux dire, les Anglais, ils sont quand même bien focalisés sur leur propre club, leur propre championnat et tout. Donc, Julien, est-ce que les Anglais disent Lineker a fumé la moquette ou
non, alors
forcé c'est de reconnaître qu'il a peut-être raison.
Ouais, un peu des deux. Pas fumé la moquette, mais oui. Alors, on commence à rappeler déjà les grands anciens. Alors, à commencer par Gary lui-même, bien sûr, mais aussi, je sais pas, un Bobby Moore dont on parlait tout à l'heure, un Charlton, un Rooney, ce genre de joueurs-là, un Keegan, des joueurs qui ont gagné des Ballons d'Or, qui ont gagné des.
Je vais dire une bêtise, Brian Robson, tu le mettrais dedans ou pas?
Alors il est un tout petit peu en dessous, oui. Même s'il a été un grand capitaine à United par exemple, mais avec la sélection c'est cette époque années 80 ou enfin 82 surtout, il est 78 80 82 il est là.
C'était mon entraîneur à Sheffield.
C'est vrai.
Je l'ai vu plus excuse-moi du terme bourré.
Ouais, carrément.
Ah ouais, enfin il est pas resté longtemps d'ailleurs. Je l'ai plus souvent titubé que frais sur le terrain.
Ça a été très compliqué dans l'après carrière que dans la carrière. Même si c'était un joueur, un milieu de terrain fantastique, hein. Mais je le mettrais un petit peu en dessous. Mais c'est dans ces discussions là qu'on est. Kane, Rooney, Charlton, Moore,
Beckham,
ouais, ce genre de joueur, c'est vraiment ce genre de joueur-là. La différence, elle se fera si tu gagnes la Coupe du Monde ou l'Euro pour Bellingham, ça c'est sûr. La Ligue des Champions, on l'a déjà gagné. Le Ballon d'Or, ça pourrait arriver avec une Coupe du Monde, un Euro, une grande saison avec le Real, ce genre de choses-là. On n'a sûrement pas l'habitude, un petit peu comme nous avec Mbappé, de joueurs et de personnalités, même en Angleterre, avec cet égo-là dans un sens. Et je ne parle pas négativement. Mais tu sais, cette génération qui exprime ses ambitions, bombe le torse.
Ouais, c'est très façon américaine.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Lui, dans une famille qui déjà parle fort, tu vois, c'est une famille qui est très présente, c'est une famille un petit peu qui gère tout. Ils n'ont pas d'agent, c'est le papa et la maman qui gèrent tout. Ils ont un avocat un petit peu, mais c'est. C'est pareil pour son petit frère, c'était vraiment mon fils est le plus fort, mon fils est le plus grand, mon fils il va aller à Dortmund à 17 ans, il va s'y imposer, il va aller au Real à 20 ans parce que c'est le meilleur, à 100 millions d'euros c'est pas un problème, il les vaut, c'est comme ça. Et lui a grandi dans une famille qui est très intelligente, lui c'est un joueur qui est très, il parle très bien, il présente très bien, il est très intelligent, il est tout ce qu'on veut, mais il a cette personnalité qui dérange je pense un petit peu en Angleterre par sa façon dont elle s'impose un petit peu partout si tu veux.
Bah c'est vrai que tu fais la comparaison avec Mbappé, c'est ni plus ni moins la même chose avec une famille qui est très présente. Après, je pense aussi que c'est le football qui doit évoluer. Il est en train d'évoluer sur ce genre de personnes, sur ce genre de personnages. Évidemment, on parle du footballeur, mais on parle aussi de ce qui se passe à l'extra-sportif. Et je peux comprendre que ça peut agacer, entre guillemets, l'opinion publique, la planète foot. Et voilà, je pense qu'il faut s'y habituer. Et moi, j'aime beaucoup Bellingham. J'aime beaucoup, même si j'étais un petit peu déçu de ce qu'il a montré récemment au Real Madrid. J'ai beaucoup aimé sa mentalité, son évolution pendant le tournoi, ses efforts défensifs, son altruisme, parce que finalement, c'est ce qu'on lui reprochait. Et là, on peut le dire, on peut le critiquer. Mais il est juste parfait. En tout cas dans ce rôle là
pour moi c'est le milieu de terrain
juste
parfait.
Ouais, il est
le milieu de terrain le plus complet du monde. Il a tout. Il peut jouer en 6, en 8, en 10. Tu peux même sur un
fonction,
côté.
Il défend,
il peut défendre, il peut attaquer, il peut marquer, il fait des passes d'ess.
Et puis il joue quasiment tous les matchs, hein. C'est-à-dire que tous les matchs 90 minutes, c'est un monstre.
Alicia est là au 32-16. Bonsoir.
Bonsoir à vous les New Yorkais.
Salut Alicia. Alors Bellingham, est-ce que c'est le genre de gars, de joueur où tu te dis lui, tiens, il joue, je vais regarder le match parce qu'il est là. Est-ce que tu vois, comme on dit communément, on se déplace pour le voir, ou bien t'es plutôt pas emballé?
Alors j'adore l'équipe d'Angleterre. Avant c'était une équipe de stars et ils savaient pas jouer ensemble. Bon là, Thomas Tuchel a décidé de faire un peu le ménage et en star pour moi il y avait Harry Kane au début. Et en fait non, c'est Bellingham qui sort du lot. J'avais adoré quand il avait fait sa saison de feu au Real. Et là, franchement, j'adore les matchs de l'Angleterre. Et quand je vois tous mes amis anglais, ben, tous les gamins, ils ont des maillots de Bellingham. Ils demandent que des maillots de Bellingham. Donc, en fait, c'est un peu le phénomène Mbappé. Bon, OK, il a la grosse tête, il a le boulard, il a des sorties médiatiques un peu hasardeuses à certains moments où c'est un peu autour de sa personne. Mais en fait, on l'oublie une fois qu'il prend le ballon.
Bon, donc toi, t'es conquise, quoi.
Ah, j'adore. J'adore même sa célébration. Enfin, voir les gamins dans les rues en Angleterre qui font sa célébration, bah, c'est, ça fait plaisir. On se dit, bah, y a encore des joueurs qui peuvent donner de l'émotion, même si dans la Coupe du Monde, on sait que les quatre qui finissent, c'est les quatre du top. Et ils arrivent quand même à nous faire des émotions avec les petits pays.
Et c'est... Sa comparaison avec Mbappé, c'est intéressant quand même. Parce que
c'est peut-être ça finalement l'indicateur. Quand Lineker dit que Bellingham, on peut dire la même chose côté Mbappé en équipe de France, c'est évidemment le joueur, mais c'est ce qu'il représente aussi dans la société anglaise, société française. Mbappé, aujourd'hui, quand tu regardes les maillots, c'est que des maillots Mbappé. Je suis en train d'entendre notre auditrice qui nous dit qu'aujourd'hui, les maillots anglais, c'est que des maillots Bellingham. Et en fait, peut-être que tu peux te rendre compte si oui ou non Bellingham peut être une grande légende et peut-être devenir l'un des meilleurs joueurs anglais par rapport à ce qu'il représente dans la société et non pas que sur le terrain de foot.
Ouais, mais après c'est un prodige, tu vois, qu'il ait débuté à Birmingham, alors même en Championship, mais à 16 ans le gars était déjà trop fort.
Et d'autant que débuter en Championship, c'est peut-être même plus dur.
Exactement, surtout physiquement, surtout à cet âge-là. Des prodiges comme ça, ils en ont pas eu beaucoup déjà. Alors Rooney, tu peux le mettre dans la même catégorie. Pour moi, c'était un joueur incroyable, un joueur de rue, un génie absolu et ce qu'on veut, mais c'était pas la même personnalité du tout que Bellingham. C'est pas le même look. Bellingham, c'est beau gosse. Bellingham, c'est Louis Vuitton. C'est, tu vois, Rooney, c'est...
Ouais, c'est plus le pub du coin, quoi.
c'est Liverpool, mais c'est autre chose.
Ouais. C'est malheureux, mais il a raison.
Mais oui, bien sûr. Tu vois, moi qui travaille avec Wayne parfois, il est super gentil, mais il est calme, il est dans son coin. Bellingham, c'est je suis là, c'est moi, il entre dans une pièce. Bellingham, c'est l'aura absolue que Wayne n'a pas et que Wayne n'aura jamais, par exemple. Tu vois, alors, Lineker, c'est un petit peu pareil. Keegan, c'était un petit peu aussi le Beatle, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, Bellingham, c'est là, c'est le monde du dessus. Tout ce qui me manquera après, c'est le palmarès. Et à la fin, on verra. Effectivement, je pense que
c'est parti là.
Alicia, j'imagine qu'une finale France-Angleterre, ça te conviendrait bien.
Alors, ça me fait mal, mais si là, il faut qualifier, je prends un billet pour le restart tout de suite. Je m'en vais, je vais fêter ça avec les Anglais.
Ah oui, toi, t'es carrément pro-anglaise.
Ah, ça y est.
Alors, j'ai une double nationalité. Je suis lensoise et anglaise.
Donc dans ces cas-là, t'as une justification, ça marche, t'as ton passeport.
Oh, ça passe.
Hein. L'Ansois, c'est une nationalité ou...
C'est une nationalité, on a un pays à part, non. Tu peux venir si tu veux, tu verras. Sinon, moi, pourquoi j'ai aimé l'Angleterre, Max du Standard s'est bien moqué de moi. C'est parce que quand j'étais petite, j'ai appris l'anglais pour parler aux Spice Girls. Et comme il y avait Victoria Beckham à la télé, bah, j'ai regardé les anglais, en fait, j'ai adoré. Et du coup,
Alors, en parlant de Victoria Beckham, Alicia, est-ce que tu as vu la photo légendaire qui est virale maintenant?
T'as compris qu'elle avait pas envie d'être là, quoi.
Sur le but de l'Angleterre, donc le deuxième de Bellingham contre la Norvège, où toute la loge des Beckham se lève, sauf elle. Elle reste assise, alors que David est debout comme ça, le fils derrière, Brooklyn ou je sais pas lequel, debout aussi. Tout le monde est fou et elle est assise. Elle en a rien à faire. Il y a pas un sourire, rien du tout. Voilà, magnifique, magnifique.
C'est pas grave. Elle a fait un beau post sur Instagram en disant. C'était bien qu'Angleterre avait gagné, donc c'est pas grave, elle a rattrapé.
Elle a quelques contrats à sauver. Merci Alicia, c'était sympa de t'avoir.
Merci Alicia.
Bonne soirée à vous, amusez-vous bien.
À bientôt. Dans un instant, nos fameuses tablées, plus l'actu du jour. Et puis, on a quelques auditeurs de l'After qui sont ici à New York. On va en recevoir. Faudrait qu'on reçoive d'ailleurs le patron du Café Luce. C'est une histoire extraordinaire. Il vient de Marseille. Il est venu à New York avec rien, les mains dans les poches.
Deux restaurants.
Il a aujourd'hui deux restaurants à New York. Si vous avez, vous aussi, des rêves d'États-Unis, il va peut-être vous donner envie, notre ami Eddie. On va l'accueillir d'ici minuit tout à l'heure. On se retrouve tout de suite avec l'actu du jour ici à la Coupe du Monde et un peu de mercato.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h35 en France, il est 17h35 ici à New York où l'after continue jusqu'à minuit. Ensuite, il y aura les nuits du Casar enchaîné qui est un après-midi du Casar enchaîné ici à New York. Julien et Jean-Christophe sont là. Ils prendront la suite dans 25 minutes donc. Julien Laurence toujours là, Maxime Chano. On accueille Gérald et Antoine qui sont deux auditeurs de l'after qui sont là ici à New York. Antoine, bonjour.
Bonjour à tous, ça va bien.
Bonsoir. Salut Antoine. Et Gérald est là. Salut Gérald.
Bonsoir.
Les gars, racontez-nous ce que vous faites à New York déjà, parce qu'après on va échanger pas mal d'infos foot ensemble, mais Antoine.
Ouais, déjà bonjour à tous, hein, ça fait plaisir de vous avoir ici à New York, bienvenue. Donc moi je travaille au Consulat Général de France à New York, je suis conseiller communication, médias et innovation auprès du Consulat Général, ça fait 10 mois que je suis là maintenant. Et on est fan de l'atmosphère qu'il y a ici avec la Coupe du Monde, c'est juste incroyable. Les fans français sont au rendez-vous, ils mettent juste le feu à New York et dans toutes les villes où la France joue, même partout. Et franchement on essaie de fédérer au maximum la communauté française, les étrangers qui viennent supporter l'équipe de France et évidemment créer plein d'événements.
Le Consulat vous organise des événements spécifiques liés à la Coupe du Monde?
Ouais, on les guide pour des watch parties surtout. Beaucoup de watch parties dans des établissements français qui organisent du coup des watch parties et nous on sponsorise, on fait venir les gens, puis on utilise le levier de notre communication pour les amener et les fédérer entre eux aux mêmes endroits pour essayer justement de vivre un moment ensemble et de supporter l'équipe de France tous ensemble devant un grand écran, des ambiances de fou, essayer aussi d'inclure des communautés internationales qui sont fans de foot mais qui n'ont pas la chance d'avoir la culture foot. Donc ici aux US, c'est moins développé que chez nous en Europe. Donc du coup,
Vous essayez de ramasser quelques Américains pour leur dire viens ça, les Français.
C'est ça. À quoi ressemble le soccer. On prend les gros filets, voilà, c'est ça. Et puis on essaie d'amener tout le monde au maximum. Et puis de les faire kiffer autour de l'équipe de France. C'est aussi ça le soft power.
C'est vrai. C'est le rayonnement de la France à l'international, les Bleus.
Exactement. La diplomatie sportive, comme exactement. On aime l'appeler.
Gérald.
Oui.
Et toi?
Je suis donc chef propriétaire de 3 restaurants dans West Village. Donc,
incroyable.
Et fan de l'OM.
Fan de l'OM.
Il n'y a jamais assez de Parisiens.
Il est venu avec son bien que Varadskelia, Gérald.
Il n'y a jamais assez de Parisiens dans cette émission.
Je sais. C'est vrai qu'il y en a un peu.
Mais raconte-nous ton aventure. T'es venu.
J'étais au Canada. J'ai rencontré mon associé ici à New York, Johan, qui est ici présent. Donc, on a ouvert notre premier restaurant qui s'appelait Saint-Tropez, West Village, en 2017. Ça a tellement marché qu'on en a ouvert un deuxième à Soho. Puis un troisième, une brasserie aussi à West Village qui s'appelle Mino Brasserie. Et là, on a ouvert un restaurant italien dans West Village aussi, qui s'appelle Lume West Village.
C'est devenu un empire, là.
On essaye. On essaie de représenter la restauration du mieux qu'on peut.
Et c'est facile de bosser à New York?
Comment ça, au niveau des visas ou... visas, c'est de plus en plus compliqué, on va pas se le cacher.
Oui, parce que là, les gens qui t'écoutent en France, là, ils disent, mais attends, incroyable.
Ils devraient faire comme toi, par exemple. Voilà. Ils veulent le faire aujourd'hui ou c'est.
Ils veulent vivre leur rêve américain comme.
Il y a toujours les visas toi. Investisseurs, mais ça demande une somme d'argent assez importante. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir un marqueur en Michelin, donc j'ai pu postuler sur un visa d'exception. D'accord. Mais c'est vrai que pour venir ici avec un visa de travail, c'est très très compliqué.
Ah ouais, t'avais déjà ton étoile, donc là,
j'ai eu mon étoile il y a une dizaine d'années en France. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de mon sponsoring de visa. Maintenant, je suis en green card, en espérant être un joueur citoyen américain comme Max.
Max connaît du monde, hein, si tu veux.
Donald
et tout ça.
Je connais surtout ces restaurants. On y mange très bien. On y mange très très bien.
Non, tu nous as pas amené.
Mais c'était difficile de t'avoir, toi, Gilbert. Le problème de Gilbert, c'est qu'à 10h le soir, il s'endort.
On travaille, nous, tu crois quoi?
Ah oui, c'est vrai, pas moi.
Et on est toujours complet. Donc, mais on peut vous faire une place.
Ah. Et donc, tu quitteras plus les États-Unis?
C'est difficile. Mon fils est américain, on a beaucoup d'attaches ici. Mais c'est vrai qu'après la famille, puis on reste français. Je dirais, je garderai mes attaches ici, mais je pense un jour rentrer en Europe. Hein.
Et l'amour du PSG, ça vient d'où?
Alors, je suis né dans un no man's land footballistique qu'on appelle l'Auvergne. Je suis né à Vichy.
Ah, Clermont Foot, ça t'a pas fait rêver.
Je suis né en 1980, d'ailleurs je tourne 46.
Comme moi, tu vois, on a plein de points en commun.
Je suis né en juillet, donc dans une semaine je vais tourner à 46. Et c'est un joueur qui m'a donné l'amour du PSG, c'est Safet Susik. C'est pour ça que j'adore les gens d'Europe de l'Est avec des gros mollets. J'ai l'impression que.
Avec Varadskelia, tu.
Ouais, je reste dans le gros mollet. Et je suis tombé amoureux de ce joueur quand, sur 11 mondial. Je suivais ses matchs, le peu de matchs qu'il y avait à la télé. Et depuis, j'ai jamais.
T'en as eu un autre au PSG, Vujovic. Gros
oui.
mollet.
Ouais. Ouais.
Avant-centre.
Ouais.
Bon, ça
moins
emblématique, on va dire.
Ouais, c'est vrai,
moins marquant. Quoi.
Ouais, moins marquant.
Exactement.
Voilà, bon, les gars, restez avec nous parce qu'il y a pas mal d'actu à partager. Vous allez lui donner votre avis. Alors, j'ai des infos sénégalaises à vous donner. Déjà, Pape Thiaw viré ce matin. Alors, il est arrivé à la Coupe du Monde, il n'avait pas de contrat. Pendant la Coupe du Monde, on lui a fait signer un contrat. Et après la Coupe du Monde, on le vire. au niveau RH, c'est quand même d'un très bon niveau ce qu'ont fait les Sénégalais. Et puis, alors, on a appris un autre truc un peu dingue. Au Sénégal, il n'y a pas eu de. Le président de la Fédé sénégalaise a dit voilà, en fait, on a depuis 10 ans un médecin qui suit l'équipe nationale, et en fait, on a découvert récemment qu'en fait, c'était un gynécologue.
Oh là là, c'est pas vrai. Attends, j'ai une petite histoire au passage.
Mais ça, c'est quand même un truc de. On est dans le foot professionnel, là.
C'est incroyable. Bon. Ouais, ça te fait rire. Alors, sache, si je peux me permettre de faire une petite aparté, quand j'arrive en équipe nationale du Luxembourg, il y avait un docteur qui était, ma foi, je ne faisais pas énormément confiance. Et l'histoire veut qu'il avait été radié de l'ordre des médecins allemands parce qu'il avait opéré en Allemagne la mauvaise jambe. Et c'était nous, le Luxembourg.
Ah, mais non, il est au Real, lui.
Ouais, il est au Real. Voilà, ouais, ça nous est arrivé. Voilà.
Mais quand Koulibaly s'est blessé avec le Sénégal, le gynécologue, tout de suite, il avait du temps. On a vu après avec Koulibaly la Coupe du Monde.
Je voulais vous signaler également que Bielsa n'est plus le sélectionneur de l'Uruguay et que c'est Diego Forlán qui a été nommé à sa place, l'ancien joueur Forlán qui donc se lance dans la carrière. Diego Forlán, on va voir ce que ça donne.
Et Patrick Vieira, quelques partisans côté sénégalais aussi, côté fédération sénégalaise. Parler,
Mais alors l'autre jour il était là, Patrick Vieira, avec nous, et il a dit que lui sélectionneur ça l'intéressait pas trop.
Patrick, on connaît Patrick.
Bah toi, tu l'as eu comme coach, toi ?
Oui, je l'ai eu comme entraîneur pendant
ici,
deux ans.
Donc,
ouais, s'il te dit vert, tu sais bien que c'est rouge. Hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais je pense que.
Toi, tu le verrais bien sélectionner
le Sénégal. Je le verrais très bien, mais en plus, je me souviens qu'à l'époque, il me disait sélectionneur, c'est le job rêvé. Tu travailles 3 mois dans l'année, t'es payé pendant 12 mois. Attends, qui veut pas faire ça ?
Bon, pourquoi pas. On n'a pas parlé de l'Argentine. Il y a eu, Julien, des tensions à Atlanta. Il y a eu des bagarres entre supporters anglais et argentins ces dernières 48 heures en marge du match.
Ouais, tout à fait. Alors, ils sont arrivés très tôt, déjà, sur place. Il y a beaucoup d'anglais qui sont là. Il y a beaucoup d'argentins, forcément, qui vivent ici et d'autres qui sont arrivés d'Argentine. Alors, quand tu vois déjà tes joueurs chanter... par rapport à la guerre des Malouines dans le vestiaire tout de suite après la qualification pour les demi-finales. Alors c'est un chant qu'on connaît tous, qui est
un chant de supporters,
voilà, de supporters, mais que les joueurs ont repris aussi.
Ils disent pour les Malouines, pour Maradona,
pour Diego, pour la troisième avec
Léo,
voilà, etc. Ou pour une autre avec Léo, je sais plus exactement, pour Messi. J'avais très peur, d'ailleurs on en a parlé un petit peu hier déjà dans l'émission. Moi j'ai très peur de ces débordements là entre supporters pour l'antagonisme qui existe déjà. Et même si tout le monde va essayer de déminer un petit peu tout ça demain dans les conférences de presse en disant c'est que du foot, parlons que de foot ici, toi qui es dans la diplomatie, tu sais que ça peut être très compliqué à gérer, surtout avec un peu d'alcool, surtout avec des supporters qui sont quand même très patriotiques des deux côtés. Moi j'ai très peur pour ce match à Atlanta.
Après, si je peux rajouter un truc sur l'Argentine, c'est vraiment pas la classe au niveau des supporters, ce qui s'est passé avec l'Égypte. Moi, ce que je peux te dire, c'est que tout le monde supporte l'Angleterre ici. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Que ce soit dans mes équipes, toute l'Amérique latine, tout le monde est pour l'Angleterre.
Ah, donc une finale France-Argentine, non, ça te plairait pas ?
Moi, j'aimerais personnellement pour la revanche, c'est sûr. Mais ce que je veux dire,
que la communauté latino, c'est complètement tourné.
Ah ouais,
ils veulent pas les Argentins.
Complètement. Bah, les Argentins se considèrent comme des Européens, donc.
Oui. Donc alors, en général, les latinos sont ensemble, quoi. Tu vois.
Mais ils sont vraiment tous contre. Là, j'ai un employé qui est brésilienne. Bon. Colombien.
Par définition.
Ouais. Mais vraiment, c'est compliqué pour eux. Et bon, après ça.
Non, mais c'est vrai que la cote de popularité de l'Argentine, pour différentes raisons. Supporters, déclarations diverses et variées,
joueurs aussi,
joueurs parfois qui envoient.
Chercher en même temps. Et c'est vrai que les Argentins dans un vestiaire sont toujours très très compliqués. J'ai pas mal d'embrouilles aussi.
Ah ouais,
ils sont très demandeurs sur le terrain. Ils ont tendance aussi à crier. Je me suis secoué avec quelques-uns, notamment Tati Castellanos, là, qui maintenant était à West Ham, qui est un super gars en dehors du terrain, mais alors sur le terrain c'était un peu difficile. Mais encore une fois, la cote de popularité argentine a baissé, je pense qu'ils l'ont bien cherché.
Et puis alors l'Argentine a demandé et obtenu de jouer en bleu comme en 86.
Le maillot porte-bonheur
bleu de Maradona, le but de la main et compagnie contre les Anglais. Et donc ils vont jouer en bleu contre l'Angleterre, forcément en blanc du coup.
C'est quand même dommage que ce match n'a pas été délocalisé au Mexique. Ça aurait été génial.
Incroyable.
Ah ouais,
moi je trouve qu'il se retrouve là.
Ouais.
Tu vois, comme ça, 86, 2026, c'est incroyable. Alors on savait au tirage aussi qu'ils finissaient tous les deux premiers de leur groupe. C'était très possible qu'ils se rencontrent comme ça, un peu comme la France et l'Espagne d'ailleurs. Moi je trouve ça fantastique. Donc au lieu de parler des Malouines, au lieu de s'embrouiller entre supporters. On peut refaire l'histoire de ce match de 86.
Et puis Coupe du Monde terminée pour Le Texier et Turpin. Il y aura plus de after review pour notre ami Turpin. Terminé. Je pense qu'évidemment le fait que l'équipe de France soit encore là, ça les tue en fait.
Et c'est ça, exactement.
Et c'est fini pour
after
eux.
Review.
Il parle en anglais extraordinaire. On l'a mis dans le jingle.
Macron, pareil.
Apparemment, il va directement à la Sorbonne travailler l'accent. Hein.
Exactement. Dans un instant, restez avec nous, Gérald et Antoine, parce qu'on a un jeu qui cartonne. On a déclaré de façon unilatérale que Mbappé est donc définitivement à la même table que Platini et Zidane. Mais quand on fait l'étape des autres nations, et on va s'amuser avec les Anglais dans quelques instants, là il peut y avoir débat. On peut s'amuser sur la table de l'Argentine d'ailleurs aussi, qu'on a commencé l'autre soir. Donc on va s'amuser à ça pendant un quart d'heure avant les nuits du Casar enchaîné qui prendront la suite ici, en direct du Café Luce. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
Il est 23h47 en France, 17h47 ici à New York, dans notre studio de l'After. On est revenu à New York, on a emmené les nuits du Casar enchaîné pour aller jusqu'au bout, bien sûr, en espérant que la France l'emporte dimanche. Julien Laurence est là, Maxime Chano est là, bien sûr, Gérald et Antoine toujours avec nous, auditeurs de l'After qui vivent ici à New York. Donc, qui va se mettre à la table de David Beckham? Parce que moi, je le mets d'office à la table.
Non.
Quoi?
Juste pour la bogositude.
Mais non, parce qu'attends, il n'y a pas que la performance sur
le terrain. Bien sûr,
d'accord. Fixons les critères. Il n'y a pas que la performance sur le terrain qui compte.
D'accord.
Il y a l'aura, il y a ce que tu représentes dans ton pays, ce que tu es pour le foot, pour le reste.
Beckham a échoué avec la sélection nationale.
Non, mais échoué avec la sélection nationale. C'est ce qui t'explique. Aujourd'hui, quand tu parles de l'Angleterre, tu es obligé de parler de David Beckham.
Oui. On n'est pas là. Alors, vous faites votre table showbiz, et puis moi je fais ma table.
Oui, ça dépend si on prend le football ou non.
Là, on fait deux tables.
Mais si, ce qu'il y a une table, il n'y a pas de nombre. Ça peut être des grandes tables.
Oui, d'accord. C'est pas une table de 3.
Non, ça peut être une table de 4, de 5.
Si t'en mets 25, oui, Beckham, tu
mets dans une grande table.
On attend tes propositions.
Je les mets au bout là-bas.
Dans le coin.
Ouais, voilà. Mais là, il est beau gosse quand même. Il faut le voir quand tu vois.
J'espère qu'il t'écoute pas vraiment, parce que là, tu vas le vexer.
Non, mais pour moi, par exemple, Bobby Moore, c'est au-dessus. Charlton, c'est au-dessus. Rooney, c'est au-dessus.
Et tu dis à n'importe quel gamin l'Angleterre, il va dire, directement te parler de David Beckham, Bobby Moore et compagnie, ces mecs-là.
Mais tu connais plus pour les publicités, limite.
Et la raison, dans le sens où c'est pas parce que c'est des gars que les gamins n'ont pas vu jouer qu'ils ont pas, ils méritent pas d'y être.
Oui. Tu vois?
Ah, mais bon, si tu reviens avant-guerre, c'est différent aussi, là, dans ce cas-là.
Il est aussi dans une équipe de Manchester United qui gagne beaucoup.
Les chevaliers de la table ronde. Non, mais il faut qu'on reste aussi un peu logique, quoi. Enfin, qu'on reste sur des joueurs qu'on connaît.
Après, oui, bon,
tu mets Bobby Moore.
Moi, je mets. De 66, t'es obligé d'en mettre un. Donc, soit Charlton, soit Moore. Ouais. Si tu préfères.
Bobby Charlton. C'est grande table, il t'a dit, donc ça va.
Oui, c'est vrai. On peut mettre les deux, effectivement, même si on n'en est pas forcément très bien.
Si en même temps, ils ont gagné sur un but ou pas but. Mais bon, on va pas y revenir.
Avec des poteaux carrés.
Pas ce jour-là, mais. on peut mettre les deux, mais pour moi Rooney est très très proche. Kane est, à la table aussi. Rooney est à la table.
C'est dire que c'est quand même, ça vole pas très haut. Hein.
À quel niveau?
Attends, tu parles de mecs qui ont un palmarès. Rooney, il a pas gagné grand chose. Rooney. Et t'es prêt à mettre Rooney plutôt que David Beckham par exemple, qui a joué au Real Madrid,
c'est le palmarès, c'est
qui
lui,
a quand même, qui a quand même justement brillé à l'international. Qui a joué au Paris Saint-Germain, enfin je veux dire Rooney.
Ouais, mais Paris Saint-Germain, 6 mois, j'aime beaucoup le PSG, on aime beaucoup le PSG.
Non, c'est la rayonnance, la
Jordan, il était là pour faire des sourires.
Non, mais bien sûr, mais c'est ce qu'il représente. On dit c'est un tout, évidemment, si on parle uniquement footballistique, je suis d'accord avec toi.
Rooney, c'est peut-être le joueur le plus talentueux. Lineker, oui. Lineker, Kane, ça se met. Donc on est à Moore, Charlton, Lineker.
Alan Shearer, allez, on le met aussi. Ah, tu vois, c'est pas
possible. Alors Shearer, c'est un joli débat. Parce qu'en sélection, à part l'Euro 96, et encore, à un moment, il rate le penalty, et voilà. En sélection, c'est plus compliqué. En club, ça reste le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue. Pas du championnat anglais, mais de la Première Ligue. Mais c'est aucun trophée. Enfin, c'est avec Blackburn.
Il est quand même en questionnement pour être mis à ta table, alors.
Non, il peut venir, mais encore une fois, je lui mets un tabouret ou je lui mets un tabouret.
C'est quoi si tu me dis Tony Verrel en France? C'est pas possible, Alan Shearer. Dans ce cas-là, on prend tous les buteurs.
Non, mais je le mets.
On a une belle table anglaise quand même.
Et Gascoigne?
Gaza obligé.
Gaza obligé.
Un génie absolu.
Ok, bon.
Ouais, mais non, mais le mec.
On parle de joueurs.
Lampard, Rooney, Gaza. Moi, ça me plaît tout ça.
Lampard, Gérard.
Gérard, oui, plus que Lampard. Moi, je suis plus Gérard que Lampard.
Ah ouais. Gérard, non. Ah, pour faire la fête, c'est mieux Lampard.
Bon.
C'est vrai. Ah oui, tu connais bien, Franck. Oui, tu connais bien. Tu connais bien. Parce qu'on dirait pas comme ça. Hein.
Non. Pour faire la fête.
Oui, il fait en famille.
C'était le meilleur pour faire la fête.
Oui, c'est
vrai. Il était pas meilleur.
Il a demandé deux fois.
Ah oui, c'était même lui qui lançait les soirs.
Faisons, demain c'est l'Espagne, on n'a pas fait de table espagnole. Alors l'Espagne, il va y avoir beaucoup de joueurs récents, je pense. Je pense que bon, des gars comme Iniesta, tu vas mettre plus de Barcelonais que de Madrilène, je pense. Est-ce que Raoul.
Raoul quand même, si.
Raoul est à la table.
Sergio Ramos, même si on n'aime pas forcément.
Donc Raoul en sélection, il gagne que dalle. Hein.
C'est vrai.
Ouais.
Après, ils sont pas beaucoup à avoir gagné, enfin, à part la génération, effectivement, ouais. Torres, Ramos, Xavi, Iniesta, mais oui, c'est vrai, Fabregas.
Je pense que Casillas,
Casillas. C'est pas possible, Julien. C'est le soleil qui t'a tapé sur la tête ou pas? C'est pas possible, arrête.
Est-ce que t'aimes pas chez Fabregas?
Mais non, mais tu peux pas le mettre à la table de l'Espagne. Dans ce cas-là, tu mets tout le monde, alors. Tu mets Gesca Mendita, et puis tu mets Carles Puyol.
Fabregas qui joue faux neuf en 2012.
Oui, Fabregas de Monaco. Allez, hop. Allez, on le met. Non, non, faut rester sérieux. Non, non, on
débute ta saison à Arsenal en première ligue.
Ouais, mais dans ce cas-là, t'as qu'à prendre Boran, t'as qu'à prendre tous les mecs qui ont débuté à 16 ans.
Mais par contre, Sergio Ramos, top de l'Espagne, Sergio Ramos.
Oui, bien sûr.
Avec le Real,
tout ce qu'il a gagné avec le Real, bien sûr. Ouais. Je pense que Casillas, tu dois le mettre aussi. T'es obligé de mettre Raúl. Pour moi, Raúl, c'est une certitude pour tout ce qu'il représente d'ailleurs en Espagne.
Guardiola,
notamment Real Madrid. Guardiola, par rapport, en tant qu'entraîneur. Ivan Hierro, tu peux mettre. Ivan Hierro, tu peux le mettre. Salgado, tu peux le mettre dans ce cas-là.
Fernando Hierro.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Ivan Hierro, lui on le met pas.
C'est son père.
Non, dans ce cas-là, tu mets Salgado, tu mets Ivan Elguera.
Luis Suarez aussi, Ballon d'Or, le Luis Suarez espagnol, Ballon d'Or, Ligue des Champions.
Il y a trois jours, le débat qui a enflammé les réseaux sociaux d'After, c'est que Kevin Diaz dit on ne peut pas ne pas mettre Neymar à la table du Brésil. Et Daniel et moi, on a dit jamais de la vie, il n'y a rien à foutre là.
C'est le même débat avec David Beckham. Il mérite d'y être tous les jours.
Pour tout ce qu'il représente.
Le problème du Brésil, ils ont gagné 5 Coupes du Monde. Excusez-moi. Et il y a tellement une quantité de joueurs incroyables. Vous les cherchez en Angleterre.
Au Brésil, on avait dit on a une table où il y a juste Pelé. Et puis en dessous, tu as une table. Ronaldinho. Ronaldo, évidemment.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on avait dit?
Rivaldo.
Romario.
Ouais.
Zico. Voilà.
Zico aussi, ouais.
Et Garincha.
Ouais.
Et est arrivé le Canemar. Et nous, on la tèche de la table.
Et Zagallo, alors, dans ce cas-là.
Ça dépend de la place sur la.
On a dit à la table de poker. Ouais.
Zagallo.
À Disneyland, on l'a vu le jour
avec Daniel et Moundir.
Voilà.
Ok.
Oui, il est bien, il est confortable.
Ouais. Bon, donc vous en voulez pas, vous, de.
J'ai un peu de mal.
Moi, je le mets, mais bon, pour ce qu'il représente, je pense, justement, à l'international.
Très bien. Bon, on s'amuse avec nos tables. Bon, il y a aussi un cas, c'est le Portugal. Moi je mets Ronaldo tout seul à sa table.
Ouais.
Hein, parce que je vois pas.
Devant Eusebio.
À sa table aussi, mais.
Luis Figo.
Figo direct.
Ouais, Figo, bien sûr.
Rui Costa.
Mais tu mets Figo à la table de Eusebio déjà, ou pas?
Non, bah ça va, attends, c'est un petit restaurant. Hein. Non, enfin, je veux dire, il n'y a pas 8 pièces non plus. Enfin, une table. Parce que si. Non, parce que si tu m'invites à ta table et puis que finalement j'arrive au resto et je mange dans le fond de la table, la table, je vais être déçu, quoi.
Si elle est au soleil.
Ouais, je vais devoir mettre une casquette. Non, mais ça dépend ce que t'appelles table. Mais oui, Eusebio, Cristiano Ronaldo, Fernando Couto.
Non. Il est pas sérieux, Max. Je lui sors tous les noms de portugais qui est en tête.
Tu connais.
Non, mais
on a posé bien sortir Kennedy et Gérald Daou.
Kevin Diaz.
Et Paoletta. Kevin Diaz. Non, mais Eusebio, Cristiano Ronaldo, tu les mets tous les jours. Ouais. Rui Costa, Luis Figo.
Voilà,
c'est bien, c'est une petite table.
Bon. Avant d'accueillir un invité exceptionnel. Pour son passage d'antenne. 2-3 infos mercato quand même, s'il n'y a pas que la Coupe du Monde dans la vie. Je vous signale que Thorgan Hazard a signé à Lens. Voilà, il a été formé à Lens, hein, Thorgan Hazard. Que Saint-Maximin a quitté Lens pour signer en MLS à Charlotte.
Oh. Voilà, MLS. Quelqu'un qui a un bon goût.
Voilà. Et Ferran Torres est dans une shortlist de 3 noms pour venir au PSG en attaque.
Ouais, pour remplacer Gonzalo Ramos.
Pour remplacer, voilà. Donc voilà, à suivre. À suivre Ferran Torres. Il nous reste 2 minutes, j'aimerais quand même qu'on ait un peu une vision sur la journée de Julien Cazard qui est arrivé hier. Plein d'énergie, de joie et d'enthousiasme.
Bonjour à tous.
Salut Julien.
Bravo, vive l'Amérique. Merci New York, merci de nous accueillir, de nous le prendre en son sein. Je me sens plus new-yorkais que jamais.
Il paraît que t'as fait que de plaindre aujourd'hui, apparemment.
Et c'est pas vrai, moi j'adore cette ville.
Apparemment,
je suis comme Rudy Garcia, vous avez mal compris. J'ai jamais dit ça. Et une interprétation de votre part. Voilà, encore une fois.
Julien, entre Liège et New York, il choisit Liège. Donc,
Non, mais là, c'est un autre niveau, Liège. Attendez, les gars.
Ah bon, le carré. Qu'est-ce que t'as à Liège?
Moi,
pas à New York.
Je souhaite à Times Square un jour d'être le carré de Liège.
Carré de Liège.
Ah ouais, non, c'est un autre niveau.
Il faut expliquer qu'est-ce qu'est le carré de Liège.
Le carré, bon, en fait, c'est il y a une rue de la soif, puis une rue de la soif, puis une rue de la soif, puis une rue de la soif, ça fait un carré, puis au milieu, t'as plein de rues. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas où tu sors.
Voilà. Comment tu sors non plus,
ouais. Genre, tu sors.
Ah mais Max, il va s'occuper de toi, il va t'amener dans le carré de New York.
Non, mais là, c'est bien, on est dans un très beau quartier.
J'ai un peu peur de rester avec Julien.
Avec moi, tu risques rien.
Ah bah, si, si.
Déjà, on m'a dit que j'avais pas le droit de mettre ma casquette, que c'était dangereux dans ce quartier, donc voilà.
Quoi?
J'ai une magnifique casquette, mec America Great Again.
Ah, celle-là?
On m'a dit ici, faut pas la mettre. Ah, c'est fou, c'est la ville de Trump, New York. Moi, je me essaye de m'adapter, je suis hyper sympa. C'est comme mettre une casquette des Dodgers à Los Angeles ou à Marseille. C'est pas les mêmes Dodgers. Mais voilà.
Faut la mettre ta casquette.
Mais oui, bien sûr, je vais la mettre. Là, j'ai une. Mais moi, tu sais, moi, je m'adapte. J'ai une casquette des New York Yankees. Magnifique. Pareil, ici, les Yankees sont pas Marseillais. Moi, j'ai découvert qu'en fait, Dodgers, Yankees, c'est pas du tout que Marseille. Hein. C'est les Américains qui ont piqué le concept.
Il est extraordinaire. N'importe où dans le monde, il va tout ramener à l'OM. Il va tout ramener ou à l'OM ou à Papé.
Non, mais attends.
Ça, c'est les deux trucs. Il commande au resto une César salade, il va t'expliquer qu'il y a un lien quelconque avec Papé. C'est
extraordinaire. Non, mais déjà, oui, parce que déjà, il y en a qui se prend, il y en a qui se prend pour César. C'est pas César.
Voilà.
Non, mais excuse-moi, si c'est pas moi qui parle des Marseillais, qui en parle? Plus personne en parle de ces pauvres gens.
Mais laissez tranquille.
Ben non, mais voilà. Non, c'est formidable, franchement.
Quel est le programme des Nuits du Casar enchaîné?
On va revenir, déjà, on va redécouvrir New York.
Déjà, c'est plus les Nuits du Casar enchaîné ici, c'est là.
C'est Mec Casar enchaîné Great Again.
Ah, d'accord.
On s'habitue totalement au pays. Et surtout, voilà, on va revenir sur les plus belles demi-finales. Parce qu'on parle toujours des finales et tout, mais des demi-finales, il y en a eu des mythiques. Et il n'y a pas eu que France-Croatie. Même si les nôtres, à part France-Croatie, sont pas toujours des trucs ouf.
Ah, ou alors, France-RFA.
France-RFA.
Une demi-finale de ouf.
Ouais, ou quand on gagne, c'est un peu moisi. On va revenir.
France-Portugal, c'est l'Euro, ça compte pas.
Oui, mais même, oui, voilà, mais France-Portugal en Coupe du Monde, il était pas terrible, 2006.
Oui.
C'était un peu merveilleux. Ouais,
non, je pensais à 84. Zéro,
Et même 2018, c'est un match un peu âpre, fermé. Et puis bon, ma femme en voudra si je parle de
France,
de la Belgique, ouais. Donc, on va revenir plutôt de Allemagne-Italie 2006. Il y en a d'autres des très belles.
Ouais. 70, ouais.
Très bien. Aussi, 70 aussi.
Et ben c'est tout de suite.
Donc, et en fait, j'ai entendu que fallait mettre Socrates et Zico, mais pas Neymar. Excuse-moi, la génération Zico-Socrates n'a absolument rien gagné. Donc si on va par là, ils ont pas plus
leur place. Neymar, il a gagné quoi?
Même
la Coupe américaine, il était même pas là.
Les Jeux Olympiques.
Il a gagné les Jeux Olympiques, merci.
Non, mais un mec qui est meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, c'est pas à toi que je vais dire qu'il faut quand même qu'il soit dans le Panthéon, comme ton Mbappé. Meilleur buteur, il a battu Pelé. Ah, s'il n'est pas à la table de Pelé.
Il a fait un triplé en finale, Neymar? Non, parce que le MJDM, oui.
Et ça a donné quoi au final, le résultat? Merci.
Champion du monde en 2018. Merci.
Il n'a pas fait un triplé en finale de 2018.
Allez, les dédicaces à enchaîner, c'est tout de suite. Et l'after revient demain, juste après le match France-Espagne, bien sûr, en direct de New York. Bonne nuit à tous.